Alors, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce thème. La place de l'opinion personnelle. Alors, vous savez qu'il y a, il y a plusieurs. Là, on va dire la paracha de Korach, Shabbat prochain. C'est une paracha très très importante parce que c'est une paracha dangereuse. J'ai remarqué souvent dans les communautés, paracha de Korach, il y a de la bagarre dans les synagogues et dans les maisons. C'est normal, c'est la paracha de la marloquette, c'est la paracha de la querelle, la bagarre. Donc, il faut faire très très attention. Et aussi qu'elle a un rapport avec la paracha de Roukat. Roukat, c'est la paracha de la paradouma. C'est cette loi qui est par référence, la loi qu'on ne peut pas comprendre, qui est la loi qui est inexplicable. Alors, d'arriver à comprendre, déjà en soi, quand c'est marqué Zot, c'est écrit Zot, Roukata Torah, c'est la loi de la Torah, et le Chok, c'est-à-dire la loi inexplicable, le dogme de la Torah. Il demande des commentaires pourquoi c'est pas marqué Zot, Roukata Para. Maintenant, il y a 613 mitzvot. Là-bas, la Torah veut nous expliquer la loi de la Paradouma, la vache rousse. Et elle nous dit Zot Roukata Torah. C'est la loi de la loi sur le dogme de la Torah. Il fallait dire le dogme de la para. Pourquoi est-ce qu'on a dit juste ça? Et là-bas, Rashi sur place, il a un langage un petit peu bizarre. Il dit comme ça: Les fiches à Satan veumot haolam moni met Israël lomar ma mitzvah azot. Parce que là-bas, le Satan, c'est-à-dire le Yetzirah et les peuples du monde, ils se moquent des bnei Israël en disant ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Ou Mata'am Yeshba. Et quelle logique il y a à l'intérieur? Les Fichar Katavba Zot Roukata Torah. C'est pour ça que c'est marqué là-bas. Zot Roukata Torah, c'est le dogme de la Torah. Gzera Im Elefanaï. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est un décret devant moi. En Lecharechut Lar Erachareya. Tu n'as pas la permission de murmurer, de réfléchir dessus. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce Rashi? Il écrit quand c'est marqué Chok à Torah, c'est-à-dire un dogme, une règle, un principe qui est posé dans la Torah. Alors il dit que les goyim et le Satan, ils vont commencer à discuter dessus. Ils vont dire Mata'am Yeshba. Quelle logique il y a? C'est vrai que c'est une loi bizarre. Parce que c'est la Paradouma, a priori, son rôle, c'est de pouvoir rendre purs les gens impurs. Donc les gens qui ont été en contact avec un mort ou quoi, et qui ne peuvent plus rentrer au Beth Amikdash, offrir de sacrifices, ou simplement retrouver leur état de pureté. Alors la Torah, elle a dit qu'on doit prendre une vache entièrement rousse, et qu'on doit faire la shrita, ensuite la brûler, et ensuite avec les cendres, on les mélange avec de l'eau pure, et on va asperger la personne qui est impure, elle va devenir pure. Ça, c'est en gros les règles. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment, parce qu'en tout, depuis la création du monde, il n'y a eu que 9 vaches rousses qui correspondent à la halakha. La dixième, elle va venir Bezrat Hashem avec le Mashiach. C'est avec ça qu'on va, rendre impur. On va rendre pur tous les bnei Israël. Maintenant, cette mitzvah, elle est très bizarre. Pourquoi? Vous allez me dire quelle différence avec les téfilines, c'est pas non plus compréhensible. La soukha non plus, c'est pas logique. Le mikvé, c'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah? J'ai entendu qu'elle est plus dogmatique que les autres. Alors là-bas, pourquoi? Il explique parce que, en fait, il y a une loi bizarre. Le Kohen qui va rendre pur, donc ce Kohen-là, il est pur. Il veut rendre pur quelqu'un qui est impur. Donc lui, il prend cette eau avec cette cendre, il va asperger la personne. Maintenant, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, on l'apprend du Passouk, que le Kohen qui va rendre pur, il va devenir impur. Par le fait de rendre pur, il devient impur. Donc lui aussi, il doit ensuite être purifié. Vous me suivez ou non? Et ça, c'est pas logique du tout. Parce que tout ce monde-là, il est construit, tout ce monde, il est construit sur le principe de Mina Chosher Yotzeor, de l'obscurité et vient la lumière. C'est-à-dire que c'est quand, dans la lutte contre le mal qu'on produit le bien. Donc on n'a jamais vu que quelqu'un qui fait des efforts pour devenir intelligent, il est devenu bête. Et celui qui lutte contre le mensonge devient menteur. Et celui qui lutte contre la grossièreté devient grossier. Non. Parce que justement, ce monde, il est basé sur ça. Quand tu nettoies, c'est plus propre. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, si vous arrivez à comprendre ça, c'est trop abstrait. Quand on nettoie, c'est plus propre qu'avant. Oui. Bien qu'il y ait des phénomènes bizarres. C'est vrai, le lavabo, on met une serviette pour se laver les mains, on s'essuie les mains. Quand on se lave les mains avec du savon, on a les mains propres, on s'essuie les mains. Comment ça se fait qu'à la fin, la serviette, elle est sale? Qui c'est qui l'a salie? Parce que tous les gens qui sont essuyés avaient les mains propres. C'est bizarre. C'est pas grave. C'est-à-dire que le cumul de propreté, ça donne de la saleté. Bon. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est rien, c'est de l'humour, hein, détendez-vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, c'est Tosfot qui pose cette question. Parce que dans Shabbat, on n'a pas le droit de mettre de l'eau sur un vêtement. Ça s'appelle laver. Oui? Alors il dit, mais c'est bizarre, parce que quand on s'essuie les mains, ça salit. Donc ça lave pas. Donc comment on peut dire que mettre de l'eau, si on a les mains mouillées, on ne pourrait pas s'essuyer avec une serviette, puisque de toute façon, on va pas la laver, puisqu'elle salit. Puisque salir, c'est le contraire de laver. Ça va? Bon. En tout cas, ici, par rapport à la vache rousse, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que c'est une loi qui n'est pas logique parce que elle va à l'encontre de la logique de ce monde qui est que le bien amène le bien. Alors que là, on voit que le bien hein, amène du mal à celui qui a produit le bien. Parce que celui qui va rendre pur, il va devenir impur. Donc, quand c'est marqué ici dans Rashi que les goyim et le satan, ils vont demander « Mata am yesh be mitzvah azot » Quelle raison il y a dans cette, quelle logique il y a dans cette mitzvah ? Alors maintenant, nous là-dessus, on pose une autre question. On dit, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, nous, que le Satan, il pose une question pareille ? Qu'il est chez sa mère, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Le Satan, il pense pas. Et les peuples du monde ? Mais les peuples du monde, qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Ouais ? Qu'est-ce qu'il veut Rashi ? Puisque les goïms, ils vont poser cette question, et puisque le Satan, il va poser cette question, mais en quoi ça nous touche à nous ? Et qui pense qu'ils veulent ? Est-ce qu'on leur demande, ou comment il faut faire marcher la télévision ? C'est leur problème. Alors eux, ils veulent nous dire comment est-ce qu'on doit faire les mitzvot ? Quel rapport ? Rashi, il est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non ? En quoi ça nous intéresse à nous ? Et après, en plus, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond que Jboukou, il dit, eh ben, si c'est comme ça, alors, Xera imilefanai, c'est un décret devant moi. Mais je vais aller voir un goy, je vais dire, écoute, tu sais, je sais que ça t'intrigue la vache rousse, mais sache que c'est un décret. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? On va aller nous expliquer au goy, tu sais, on met les tuilines pour ça. Ça ne l'intéresse pas. Et si ça l'intéresse, on va lui expliquer à moitié, on ne va pas lui expliquer en profondeur, ça ne sert à rien. Donc, c'est bizarre, ce Rachid est bizarre, c'est une ambiance bizarre. Comprenez ou non ? On parle à des gens qui ne sont pas concernés. C'est comme si vous prenez l'avion, vous arrivez à Rio de Janeiro et vous dites à un type dans la rue, écoute, je ne suis pas bien en ce moment avec mon mari. Le type dit, écoutez madame, je ne vois pas tellement en quoi ça me concerne. Oui, mais en ce moment ça ne va pas, il ne me parle plus, il ne m'écoute plus. Ben, c'est pareil. Nous et le goy, en ce qui concerne la mitzvah, on n'a rien à voir. Toi, tu es dans ton monde, moi je suis dans mon monde. Alors moi, je vais aller lui expliquer. Genre lui, déjà que lui, il a une interrogation, c'est bizarre. Ouais. Et que moi, je vais lui expliquer. Alors, en vérité, c'est à moitié faux ce que je vous dis, moitié vrai. Parce que souvent, les goïms, ils ont des interrogations. Bah, souvent, les gens, ils m'arrêtent, ils disent, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le sens ? L'autre jour, je revenais de je sais pas où, et écoutez, quand on va à l'aéroport, le douanier, il m'arrête. C'est très rare qu'il m'arrête. J'ai pas une tête de voleur ou de trafiquant de drogue. Il m'arrête, il dit, bonjour, monsieur, rien à déclarer, j'ai fait si, j'aime la vie, bon, dis-moi, à part ça. Alors, il m'a dit, je peux vous poser une question ? Je dis oui. Il me dit, c'est quoi le fruit jaune que les gens y ramènent en septembre, comme ça ? Le hétrog. C'est bizarre. Il me posait la question. Une autre fois, un autre douanier aussi, en allant à Londres, il m'a demandé, est-ce qu'on peut assister au cours de judaïsme ? Une autre fois, l'agent de sécurité, tu sais, les bahas qui vous fouillent là, quand vous passez à la sécurité, il m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire ça en hébreu ? C'est-à-dire qu'ils sont intrigués. Vous comprenez ce que je veux dire ou non ? Ils sont intrigués. Un type comme ça en 2007 avec une barbe, un chapeau, un costard, c'est bizarre, ça les interpelle, ils ont des questions. Donc Rashi, il a un peu raison, d'accord ? Ça c'est par rapport au peuple, mais par rapport au Satan, ça veut dire quoi le Satan maintenant, il va poser la question, ouais ? Et nous qu'est-ce qu'on lui répond ? Xeraim ilefanaï, ça veut dire il n'y a pas à réfléchir, c'est comme ça. Mais il veut pas ça le goy, il veut une explication, il veut une logique, il veut un cheminement intellectuel. Ça veut dire quoi ? C'est comme ça, il n'y a pas à réfléchir. Alors le principe était comme ça. Et aussi quel rapport avec la paracha de Korach ? Pourquoi est-ce qu'on a collé ça avec la paracha de Korach ? Alors il dit le principe il est comme ça. On sait que Korach, quand il est venu chez Moshe Rabbeinu, il avait deux ta'anot. Il avait deux grandes questions. La question des tzitzit, des techelet, on va voir, et la question de la mezouza. Oui, il a posé deux questions. Il essaie de piéger Moshe Rabbeinu. L'idée c'est de dire que Moshe Rabbeinu il a reçu quelques commandements et le reste il a inventé de sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il est venu ? Il a dit, voilà, je te pose une question. Il y a une mitzvah de Techelet. Vous savez que normalement, bon, aujourd'hui, on ne le fait plus parce qu'on ne connaît pas exactement le poisson d'où on tire le sang pour faire le bleu du tzitzit. Mais normalement, on doit avoir un fil bleu sur les 8. D'accord ? Et c'est ça qu'on dit Uritemoto, vous le verrez. On doit dire Uritemoto, c'est sur le fil bleu. D'accord ? Alors, lui, il a posé la question comme ça. Il a dit, la Torah, d'après toi, elle a demandé qu'on mette un fil bleu sur les 8 fils. Alors il a demandé, si quelqu'un il a un talit qui est entièrement bleu, entièrement techelet, c'est-à-dire le vêtement, ouais, au lieu d'avoir un vêtement blanc avec 8 fils, dont un fil bleu, il a un vêtement complètement bleu. Alors est-ce que dans le tzitzit, il doit mettre un fil bleu ou non ? Il a posé cette question. Alors Moshe Rabbeinu, il a répondu, il a dit, écoute, il n'y a pas de différence, la Torah, elle a dit que le vêtement il soit bleu ou fluo ou jaune ou rouge, et il doit mettre un fil bleu. Il a dit, donc tu vois que cette Torah, elle n'est pas logique. Cette loi, elle n'est pas logique. Parce que si le fil bleu, il est là pour te rappeler quelque chose, à plus forte raison que si tout le vêtement, il est bleu, que je ne vais pas oublier. D'accord ? Deuxièmement, il a demandé, c'est marqué qu'on doit mettre une mezouza à la porte de la maison. D'accord ? Il a dit, pourquoi faire ? Pour que quand tu rentres à la maison, tu vas te rappeler du bon Dieu. Attention où tu vas, attention quand tu sors. Quand tu sors, n'oublie pas le bon Dieu. Quand tu rentres, n'oublie pas le bon Dieu. Et c'est très très important d'avoir comme ça des dépenses bêtes. Surtout pour, si on est bête. Ouais. Quelqu'un, il doit se rappeler où tu vas. Tu sors de chez toi, attention. Attention au danger. Là, tu es en milieu protégé. Tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tes sfarim, tu as tes tefilines, tu as ta cache-route. C'est bien. Tu sors dehors. Il y a beaucoup de météorites, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de dangers, il y a des Amazones qui se baladent. C'est pas évident. Donc, tu embrasses la mezouza, tu dis Hachem, protège-moi. Ouais. Quand tu rentres à la maison aussi, il y a des dangers. Tu peux te mettre en colère contre tes enfants, tu peux faire la tête à ta femme, à ton mari, tu peux dire n'importe quoi, tu peux aller faire des bêtises sur Internet. Alors, tu pries quand tu rentres à la maison, Hachem, protège-moi dans la maison. Quand tu sors, tu pries Hachem, protège-moi dehors. D'accord. Donc, la mezouza, elle a un rôle à jouer. Pourquoi? C'est pour une prise de conscience, d'accord, que tu n'oublies pas, hein, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il a demandé Korach, il a dit, maintenant, si une mezouza, elle est remplie de Sefer Torah, une maison, elle est remplie de Sefer Torah, remplie. La mezouza, c'est un morceau du Sefer Torah, c'est un petit passage du Sefer Torah, c'est rien du tout, c'est quelques lignes par rapport à toute la... Il a dit, si j'ai une maison, j'ai 64 Sefer Torah, d'accord? J'en ai 12 dans la salle à manger, 4 dans la cuisine, 5 dans la chambre, 8 dans la... Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza ou non? Moshe, il a dit, oui, ça change rien. Tu peux avoir 1 million de Sefer Torah. La Torah, elle a dit que tu dois, tu dois l'écrire sur les frontons de ta, les poteaux de ta maison. Tu dois le mettre. Même s'il y a 54 Sefer Torah, tu dois mettre la mezouza sur le mur. Alors, il a dit, Korar, donc tu vois bien que cette loi, elle est débile. Donc, ça prouve que c'est toi qui l'as inventée et que c'est pas Dieu qui a pu dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a compris de cette manière. Ouais. Il a eu cette approche-là que quoi? Que nous, on regarde les choses par rapport à une certaine logique. Sous-entendu, c'est quoi le principe? C'est que puisqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous, et que la Torah elle, s'adresse à nous, donc certainement qu'elle a un rapport avec nous. On ne va pas nous donner une loi qui n'a rien à voir avec nous. Ouais. On ne peut pas parler en chinois à des gens qui parlent que le français. Ça n'a aucun intérêt. Donc maintenant, il y a ce qui est intelligible, parce que l'intelligence, c'est l'adaptation. Donc ce qui est intelligible, c'est-à-dire ce qui est accessible. La Torah, elle vient, elle s'adresse à nous, elle nous donne des principes, ces principes, ils ont un rapport avec nous. Donc, Korach, il dit, si quelque chose ne colle pas avec ma logique, ça veut dire que c'est faux. C'est faux par rapport à moi. Donc, c'est pour ça qu'il a eu un rejet par rapport à ça. Et il avait une logique à lui qui était quoi? On a dit, par rapport au tzitzit et par rapport à la mezouza. Il dit, mais d'un autre côté, tu peux dire exactement le contraire. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, par rapport au Techelet? Lui, il a dit quoi? Il a dit, tu vois, quand un truc, il est entièrement bleu, tu n'as pas besoin d'avoir un fil bleu. Quand il y a un habit qui est entièrement bleu, tu n'as pas besoin d'avoir un fil bleu. Mais en vérité, c'est l'inverse. Parce que en vérité, qu'est-ce qui fait ressortir les choses? C'est le contraste. Donc, quand tu mets un fil bleu sur des fils blancs, donc tu le vois. Mais un fil bleu sur un vêtement bleu, il n'apparaît plus. Ça veut dire que le contraste, la mise en relief, elle vient justement de la différence. Donc, la différence, elle est nécessaire. Et cette différence qui est nécessaire... Elle signifie que ce qui ressort des choses, oui, c'est ce qu'on met en relief par rapport aux choses. Comme quand moi je remarque quelqu'un, c'est parce que je l'ai mis en relief par rapport aux autres. Mais si je dis, oh, de toute façon, on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Ouais, mais la pelouse aussi, c'est tous la même. Et tous les papiers peints sont pareils. Et tous les murs sont pareils. Donc en fin de compte, je vais détruire l'individualité au profit de la masse. Ça signifie aussi que je vais annuler le côté original de quelqu'un par rapport à une espèce de normalisation. On est tous des consommateurs, on est tous égaux, on est tous... Donc je vais détruire en fin de compte l'individualité. Je vais détruire l'originalité. Maintenant, l'originalité, elle vient comment? Parce qu'elle est mise en relief. Tu vas écrire une lettre. Par exemple, tu dis... En français, on dit noir sur blanc. Ouais, c'est noir sur blanc. Tu écris une lettre. Donc tu la vois, parce qu'il y a un fond blanc. Mais si tu écris une lettre qui est tellement épaisse, la police est tellement épaisse, qu'elle remplit le panneau de 4 mètres sur 4 mètres. Donc tu la vois même pas. Je dis, mais t'as pas vu que c'est un R? Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Oh, avec du recul, je me rends compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, ce que tu crois être, quand on t'en met plein la vue, peut-être tu vois moins que quand on te donne du recul aux choses. Et dans tout, c'est pareil. Comme l'enseignement, ouais. Les enfants, on leur répète. On croit qu'ils retiennent. C'est pas vrai. Peut-être la quatrième fois, ils n'écoutent plus. Pourquoi? C'est pas en relief. Il faut se débrouiller pour que ça soit en relief. En relief par rapport à quoi? Par rapport à un contexte. Donc tu vois que le principe, lui, il a dit, quand tout est bleu, eh ben, c'est encore plus clair que quand il y a un fil bleu. Ça peut être l'inverse. Que quand, en vérité, quand tout est bleu, quand tu es dans un milieu entièrement religieux, eh ben, tu ne te rends plus compte de la valeur de la Torah. Parce qu'il n'y a pas le fil bleu qui ressort. Alors que l'autre, qui était dans une école goy, et que son père, il lui a dit, tu sais, mon fils, sache que tu es un juif, et fais attention à te garder toujours dans la cache-route. Le mec, ça l'a marqué toute sa vie. Alors que l'autre, il a grandi depuis qu'il est petit, on lui propose de manger taref, il dit, bon, de toute façon, qui a dit que c'est pas bien? Pourquoi? Parce qu'il était dilué dans une masse. D'un autre côté, on va dire, on va pas donner à nos enfants taref pour qu'ils comprennent l'importance de la cache-route. On ne peut pas prendre ce risque. Mais le problème, il est, c'est pas évident dans la déontologie de savoir quelle démarche il faut aborder. Parce que tu parles de quoi? Tu parles de mettre en relief les choses, ouais. Les mettre en relief, c'est quoi? C'est les mettre en contraste. Tu dis, mais le contraste, c'est un risque. Parce que quand tu mets l'un par rapport à l'autre, il peut choisir l'autre. Et nous, il voudrait qu'il choisisse l'un. Dans tout, c'est pareil. Vous voyez cette logique-là un petit peu? Il dit maintenant, et c'est pareil la mezouza. On dit la mezouza, on a dit quelqu'un maintenant. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza dans une maison qui est remplie de Sefer Torah? Ça sert à rien. Parce que la mezouza, c'est un morceau du Sefer Torah. Donc j'ai des milliers de mezouzot à l'intérieur d'un Sefer Torah. Alors maintenant, si j'ai 50 Sefer Torah dans une maison, pourquoi je vais mettre une mezouza? Ça sert à rien. D'un autre côté, ça n'a pas de sens. C'est comme si moi, je veux t'envoyer un mot. Je vais te dire, tu sais, soit à 5 heures à la gare, j'ai besoin de toi. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais pour ça? J'écris un livre de 7000 pages et dedans, je mets le message. Et je t'envoie le livre. Et je te dis, tiens, je t'ai envoyé un message. Tu dis, attends, mais où est le message? Il est dedans. De toute façon, il est dedans. Je t'ai envoyé le message. Tu dis, mais le message, il est dans le 7000 pages. Comment je vais faire? Donc ça ne veut rien dire en vérité l'idée. Lui, il a dit, puisque la mezouza, elle est déjà à l'intérieur du Sefer Torah, hein, donc j'ai pas besoin, hein, de mettre des mezouzot quand j'ai un Sefer Torah. Mais c'est le contraire. Parce que quand tu es noyé dans un Sefer Torah, tu vois pas la chose. Oh, la Torah, elle l'a mis en relief. Elle t'a dit, écoute, occupe-toi de toi. De ça, c'est ce texte-là qui m'intéresse. Donc regarde celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, moi, je vais donner une idée. Ben, on peut comprendre d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième. Il y a beaucoup de manières. Vous savez, dans la pensée, dans la philosophie, on peut tracer des millions de chemins. Ils auront tous l'air vrais. Ça, c'est déjà dans le vrai. C'est-à-dire, pas dans le vrai, dans le logique. D'accord? C'est-à-dire que déjà dans la logique, on peut tracer des centaines de chemins. Après, dans l'illogique, on peut aussi tracer des chemins. Si moi, je veux faire une démarche qui est philosophique, je vais vous expliquer de plusieurs manières la chose. Mais on peut tout expliquer. Les nazis, ils expliquaient les meurtres de manière logique. Le type qui fait adultère, il explique de manière logique. Le type qui vole, il t'explique de manière logique. Le type qui a fait un hold-up, il comprend pas pourquoi on l'arrête, puisque le ministre qui s'est planté sur 1 milliard, on l'arrête pas. Donc il dit qu'il y a des différences. Lui, il vole légalement, moi, je vole illégalement. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi, tu m'embêtes pour 10% de retard sur l'URSSAF. Lui, il a pris 1 milliard dans les caisses. Mais on dit que bon, c'est un choix administratif qui était lié à une certaine politique. Mais quel rapport? Maintenant, c'est du vol. De quoi tu parles, toi? Surtout qu'il a pris des enveloppes comme ça en partant. Donc ça veut dire, tu m'envoies en prison pour 10 euros d'URSSAF. Et lui, qui a pris 1 milliard, au contraire, il a été augmenté. Il passe de poste et toute sa vie, il aurait une retraite. Je comprends rien comment ça fonctionne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te bases sur une logique, la logique, il peut y avoir une autre logique. Encore une troisième logique, une quatrième logique, une cinquième logique. Ça, c'est dans la logique. Après, dans le deuxième niveau, la non-logique, c'est-à-dire une autre logique qui n'est pas la logique logique. Ouais. Tu peux aussi faire plein de démarches. Comprenez ou non? Moi, je vais t'expliquer qu'à partir de maintenant, tous les gens qui ont les cheveux roux, ça prouve quelque chose. Alors, je vais te faire une démonstration par rapport à ça. Ou je vais te dire tous les gens qui ont une surcharge pondérale de plus de 300 grammes, donc c'est qu'ils ont un problème au niveau psychique. Et je vais t'écrire un bouquin sur ça. Tu vas dire quoi? On est tous des malades. Ah bah écoute, vous comprenez ce que... Et je vais te faire une démarche. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans l'illogique, il y a aussi une certaine logique. Alors on va dire, toutes les démarches que je peux développer dans la logique, plus toutes les démarches que je peux développer dans l'illogique, c'est-à-dire dans une autre logique, une autre forme de logique, et ensuite toutes les démarches que je peux développer dans l'absurde. D'accord? Ça c'est la philosophie d'aujourd'hui, ça s'appelle le délire. On délire, puis on délire, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, c'est pas grave. Toi aussi tu délires, moi aussi je délire. Si moi je délire et toi t'es logique, c'est difficile à vivre. Mais si toi et moi on délire, y a pas de problème. On va tous délirer, on est tous en plein de délire. Ouais, c'est la philosophie du troisième millénaire. Ouais, c'est ce qu'on appelle les 3D, ça veut dire en relief, 3D 1000, 3D, d'accord? D'accord, on se met à 3D, mais ils disent une lourdeur plus grosse que l'autre. Et les gens, ils sont contents, ils disent, au contraire, tu sais, c'est la libération, et puis c'est l'ouverture, et puis pourquoi pas, et puis c'est la créativité, mais tu dis n'importe quoi. Ouais, mais c'est la créativité. C'est que maintenant, il y a les démarches dans la logique, les démarches dans l'illogique, et les démarches dans l'absurde. Vous me suivez ou non? Dans tout ça, il faut que tu trouves la vérité. Et je vous dis, les trois sont développés. Il y a des professeurs au CNRS qui étudient depuis 20 ans l'absurde. L'autre, il est responsable du département des arts graphiques de Trelouette de la perception du volume des incas dans la masse des tomates. Mais il est payé pour ça. Tous les mois, il reçoit une paye par le CNRS. Je te crois pas, on paye pour ça? Ouais, on paye, bien sûr, il est payé pour ça. Il fait une recherche. Il y en a un, je me rappelle, il avait créé un bouquin sur les bulles de savon. Ne rigolez pas, c'est hyper sérieux. Il s'appelle les solides précaires, un truc comme ça. Un bouquin de physique compliqué, hein. Genre, pourquoi une bulle, elle tient pas longtemps? Elle a passé toute sa vie pour réfléchir pourquoi la bulle de savon, elle éclate. Non, ne rigolez pas, c'est sérieux. Essayez-vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut développer des principes sur tout, on peut développer des réflexions sur tout. Alors maintenant, comment maintenant savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Pour peu que le type parle bien, qu'il soit intelligent et qu'il soit sympathique, on peut avaler n'importe quoi, il n'y a plus de limite. Parce que c'est juste une démarche, vous voyez? Et après, il y a celui qui parle et celui qui écoute, celui qui est prêt à écouter. C'est-à-dire, quand elle, jusqu'où elle va la persuasion et où est-ce qu'elle commence la démagogie? La manipulation. C'est très compliqué. Pour peu que quelqu'un il ait du charisme et qu'il soit ouvert et intelligent, bah, peut-être qu'il utilise votre cerveau. Comment vous pouvez savoir? Une fois, j'ai fait un cours sur la communication, il y a un type qui a levé la main, il dit, ouais, mais peut-être que vous êtes en train de manipuler entre l'émotion, la réflexion. Je dis, oui, mais la porte, elle est ouverte. Tu veux, tu te lèves, tu sors. Tu es libre. Donc, si moi, je suis un manipulateur d'idiot, toi, tu as choisi d'être idiot parce que tu es assis. Et là-bas, tu veux être intelligent. Alors, vas-y, discute. C'est comme ça, la vie. Quelle différence? La télé aussi, elle te manipule. La rue, elle te manipule. Le temps, il te manipule. Oh, il fait moche. Ben, c'est une manipulation. J'ai pas le moral, il fait moche. Tu dis, non, je m'en fous, il fait moche, mais j'ai le moral. Ou tu es en lutte parce que tu veux exprimer quelque chose, ou tu subis parce que c'est un choix qui t'appartient. Donc cette logique-là, elle va être très difficile de savoir. Dans Korach, il est venu avec une forme d'expression, une forme de logique qui est propre à lui, et Moshe a répondu avec une autre logique qui est celle que la Torah lui a proposée. Alors comment ils fonctionnent les deux? Alors on a dit, un des arguments, c'était quoi? C'est de dire que quand il y a une mezouza dans une maison, et si on a une maison qui est remplie de Sefer Torah, de rouleaux de la Torah, on n'est pas obligé de mettre une mezouza. Alors il y a encore une autre lecture là-dedans, c'est quoi? Parce que tu vois bien que si déjà il y en a 1000, c'est pas la peine de 1. Ouais, on dit Bichlal Mataim Mané. Si quelqu'un il a 200 euros, il a 100 euros. Ce qu'il a 200, il a 100. Dans les quantités, c'est possible. Mais dans la précision, c'est faux. C'est faux le principe. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est marqué par exemple Urtavtam. Il y a une loi dans le Sefer Torah que quand on écrit les lettres du Sefer Torah, chaque lettre elle doit être séparée de l'autre. Dans un Sefer Torah, il y a 312 000 lettres. Oui. S'il y a deux lettres qui sont collées, deux, c'est plus cachère. Ah, bah, c'est exagéré. Tu aurais pu dire au moins, il faut que la majorité. Non, 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 non. Pourquoi? C'est quoi le principe? C'est que chaque lettre. Non, je sais que la question que vous avez, vous me dites, c'est pas vrai, parce que j'ai entendu plusieurs fois, on m'a expliqué que dans la Torah, il y a 600 000 lettres. Oui? Et moi, je viens de vous dire qu'il y en a 312 000. Vous aviez cette question?
Non,
dommage, c'est pas grave. Je fais les questions et les réponses, du coup. D'accord. Alors, le principe, c'est comme ça. Vous savez qu'il y a des lettres qui sont faites de deux lettres. Par exemple, le même. Le même. C'est un K, un Khaf, ouais, avec un Vav, qui sont collés. Mais c'est vu ou non? C'est-à-dire que la lettre elle-même, elle est formée de deux lettres. On dit, par exemple, le Aleph, c'est un Vav avec deux Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Vous me suivez? Maintenant, en fait, le Aleph, le Vav, il correspond à la séparation des deux mondes. Maintenant, il y a le monde spirituel, le monde matériel. Dans un côté et dans l'autre, on retrouve la même chose. La seule différence, c'est que c'est inversé, comme négatif, positif. D'accord? Chez les non-juifs, ils appellent ça la matière et l'antimatière. C'est-à-dire que l'univers, de l'autre côté, il y a le même monde, mais en inversé. Le même, en anti-énergie. Là, il est en énergie, là, il est en non-énergie. Là, l'énergie, elle subsiste, là-bas, elle disparaît. Là-bas, elle est absorbée, et là-bas, ici, elle est développée. Vous voyez? Ça représentait du Aleph. Le Aleph, c'est la création des deux mondes. Le Yud et le Yud, de chaque côté. Parce que le Yud, c'est la première lettre avec laquelle Dieu a créé le monde. Parce que Dieu a créé le monde avec Yud et He. D'accord? Le Yud, c'est le potentiel. Alors maintenant, et pour ça qu'il n'y a pas de Aleph dans la Torah. Pourquoi la Torah elle commence par un bête? Parce que le Aleph, il fallait le mettre en place déjà pour que le bête il puisse se mettre en place. C'est-à-dire que le monde, on va dire le monde électronique, il a été créé avant le monde physique. Parce qu'il fallait d'abord créer le schéma du monde pour pouvoir ensuite le mettre en place. Donc maintenant, chaque lettre de la Torah, elle est séparée. S'il y a deux lettres qui sont collées, c'est plus cachère. On l'a dit, il y a 312 000 lettres écrites, mais en vérité, il y en a 600 000 parce qu'elles sont racolées les unes aux autres. Ça va, c'est clair? Maintenant, il y a écrit Urtaftam, Urtaftam, vous les écrirez. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi Urtav Tam? Ktav Tam. Ktav Tam. Ktav, l'écriture, Tam, complète. Tam, ça veut dire complet, entière. Maintenant, si on colle deux lettres, le Sefer Torah n'est plus cachère. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que, en vérité, le blanc qui entoure la lettre fait partie de la lettre. Le blanc qui entoure la lettre fait partie de la lettre. Donc, quand vous collez deux lettres, ça forme une autre lettre, qui n'est pas la même. Ça va jusque-là? Donc il faut séparer les lettres. Donc quand je regarde une lettre, je regarde un raf, vous voyez, et ben le blanc lui-même, il fait partie, le blanc autour. Parce que qu'est-ce qui fait ressortir le raf? C'est le blanc qui est autour. La preuve, si j'écris un raf sur une feuille noire, je vois rien. Par contre, si je prends une feuille qui est entièrement ancrée et je gratte et je fais apparaître un raf, je gratte et je fais apparaître un raf. Donc j'ai deux manières de faire apparaître la lettre. Soit je peux l'écrire noir sur blanc, soit je peux gratter le noir qui fait apparaître le blanc. Ça va? Maintenant, on dit que chaque lettre de la Torah, elle correspond à un Ben Israël. C'est pour ça qu'on dit on est tous, on a tous un lien avec la Torah. Donc chaque Ben Israël, il a une lettre dans la Torah. Mais on a dit, mais il y a des lettres qui sont composées de deux lettres. Parce qu'il y a des personnes qui sont composées de deux personnes. Il y a des personnes qui ne pourront exister que grâce à quelqu'un d'autre. C'est les complémentaires. Vous voyez? Moi, je vais me réaliser que grâce à l'autre qui va m'aider à me réaliser. Maintenant, je ne peux pas exister sans l'autre. C'est les lettres. Par contre, il faut, à part ça, respecter l'individualité de chacun. Donc, il y a un espace. Alors, de la même manière qu'il y a un espace physique, ça s'appelle la aura. Vous savez, ils ont mesuré, les scientifiques, qu'une personne, elle a une espèce de champ magnétique autour d'elle, de lumière, qui l'entoure. C'est pour ça que quand quelqu'un me colle trop, ça m'étouffe. Je dis, attends, s'il te plaît, on va parler. Ouais. Dans le train, vous avez vu, remarquez les gens quand ils s'assoient, chacun essaie de s'asseoir à côté de là où il y a une place vide. S'il y a quatre places, il y a un endroit vide autour. C'est dur de. Parce que. Ils appellent ça en français l'espace vital. Ils ont mesuré, il fait arba amot, c'est-à-dire il y a une espèce de sphère qui fait 2 mètres de volume dans lequel l'homme est inscrit. Et cette loi-là, c'est une loi que, même dans les lois de propriété, si quelque chose tombe dans mes 2 mètres, ça m'appartient. Mes 2 mètres, c'est mon espace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blanc qui est autour de la lettre est le blanc qui est autour de moi dans ma vie. Vous me suivez ou non? La claustrophobie, c'est une maladie. D'accord? Mais n'importe qui on va mettre dans un placard qui fait juste la taille de son visage, il va devenir claustrophobe. C'est un espace. Mais la moyenne des gens, si tu leur donnes un truc de 2 mètres, bon ben, c'est la taille d'une cellule, bon, il va survivre. Vous voyez cette logique là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lettre, elle a besoin du blanc qui est autour. Et la personne, elle a besoin d'être regardée par rapport au blanc qui est autour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individualité de chacun, elle doit être respectée. Elle doit avoir sa place. Et c'est son entourage qui va la mettre en relief. Oui, c'est la personne sur son entourage. Alors à l'époque, je vous avais dit cet exemple, je ne sais pas si vous en rappelez, que j'avais parlé avec un prof des Beaux-Arts quand j'avais 17 ans. Et il m'avait dit, il y a 2 écoles dans le dessin. Il y a des gens qui dessinent l'objet qu'ils voient et il y a des gens qui dessinent le contour. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Par exemple, regardez, on va faire l'expérience ensemble. Vous voyez le micro là? Vous le voyez tous ou non? Vous voyez le micro? Non, si vous le voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Donc, le micro, vous le voyez, d'accord? Maintenant, il y a 2 manières de dessiner le micro. Soit vous allez regarder le volume du micro et puis vous allez dessiner une barre. Puis là, vous allez dessiner une autre barre. Puis là, vous allez dessiner en perspective, vous allez dessiner le micro. Soit vous allez dire, je vais essayer de reproduire non pas le micro, mais la forme du décor autour. Parce que vous voyez le micro là? Il va de là à là pour vous, dans votre image. À partir de là, c'est plus le micro. Il y a un peu de mon visage, il y a un peu du mur, il y a un peu de... D'accord. Alors maintenant, ce prof m'a expliqué. Il m'a dit, voilà, il y a 2 manières de dessiner. Soit tu vas dessiner le micro, soit tu vas dessiner le contour, ce qu'il y a autour, le décor autour. Et ce qui va rester, c'est le micro. C'est logique. Alors, quelle différence entre les deux? C'est que malheureusement, notre cerveau à nous et notre main, elle suit une certaine mécanique. Plus on dessine, plus la main, quelque part, elle dessine de manière automatique. Maintenant, plus mon cerveau aussi, il va faire. Maintenant, le plus dur en dessin, c'est de reproduire ce qu'on voit. Mais le danger, c'est quoi? C'est de dessiner un dessin. Je dis, mais je comprends pas ce que tu racontes. Mais je suis en train de dessiner ce que je vois. Non, non, non. T'es pas un appareil photo. Tu es une personne. Donc la personne, elle perçoit des angles, elle perçoit des volumes, elle perçoit des couleurs. Et je dessine. Maintenant, pourquoi moi je dessine comme ça, toi tu dessines autrement? Je dis, bon, on n'est pas dans le même angle, on voit pas la même chose. Mais dans la vie, c'est pareil. Pourquoi toi tu perçois les choses de cette manière et toi d'une autre manière? Pourquoi toi tu prends les choses au premier degré, toi tu prends au quatrième degré? Pourquoi toi tu as du recul, toi tu n'en as pas? Ben, c'est normal, parce que notre logiciel de gestion de la perception, il n'est pas le même, parce qu'on n'a pas la même personnalité. Alors maintenant, si moi, par rapport à moi, je dessine ce micro, la première fois que je le regarde, je le vois, la deuxième fois, je le vois, la troisième fois, je le vois. Maintenant j'ai compris comment c'est, il y a un tube là, un tube là, un tube là. Donc j'ai 3 tubes que je dois mettre dans une certaine perspective. Donc au bout d'un moment, j'ai plus besoin de regarder le dessin, le micro, je dessine. Ben, suivez ou non? Donc je dessine le dessin au lieu de dessiner le micro. Donc j'ai perdu le contact avec la réalité. Mais pourquoi? Parce que je sais comment c'est un micro. J'ai déjà une culture du micro. J'ai une culture du cylindre. Donc c'est pas très dur. Donc je peux reproduire ça. 2 cylindres et un micro, c'est facile, d'accord. Mais si moi, au lieu de regarder le micro, je regarde le contour. Je n'ai pas une culture du contour. Je ne sais pas si vous me suivez, ça ne veut rien dire. Oui, je ne peux pas avoir une culture de l'entourage des choses. Je peux avoir un poteau, une boîte, un volume. Donc, je peux facilement m'adapter. Et toujours, les profs de dessin disent, bon, tu veux dessiner une voiture. Alors, d'abord, tu dessines le volume de la voiture. Après, tu dessines que les parties apparentes qui viennent de ton angle. Ouais. On t'apprend à visionner les choses en volume. Mais en VTC, c'est de la triche. C'est de la triche parce que déjà, tu es en train d'interpréter ce que tu vois. Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Parce que toi, alors, tu le dessines déjà en volume. Après, tu le caches avec le devant. Mais en VTC, tu le dessines en volume. Il dit maintenant, par contre, celui qui va avoir l'honnêteté de dessiner le contour plutôt que de dessiner l'objet, il a plus de chances d'avoir une vision objective de l'objet que celui qui va dessiner l'objet. Puisqu'au niveau de l'objet, comme il a déjà une culture, donc il va bien très très vite, la perception de l'objet, elle va se fondre dans la culture de l'objet qu'il a déjà. Et donc, au lieu de dessiner ce qu'il voit, il va dessiner ce qu'il sait. Ça va? C'est clair ou non? C'est un principe philosophique en dessin. Regardez l'application dans la vie, elle est très grave. Quand tu regardes une personne, tu peux la dessiner de deux manières, telle qu'elle est ou le contexte dans lequel elle est. Maintenant, la personne elle-même, bon, il est grand, il est gros, il est maigre, il est religieux, il est intello, il est journaliste, il est scientifique. Tu as déjà des a priori. Donc, au fur et à mesure que tu essaies de regarder la personne, tu l'inscris dans des filtres que tu as accumulés déjà dans ta tête. Donc, toi, tu vas l'inscrire dans une catégorie, mais lui, il n'est pas une catégorie, il est une personne. Tu dis, ouais, bon, la majorité des gros sont comme ça, la majorité des gens comme ça, l'autre qui est dans l'informatique, bon, il n'a pas choisi la partie commerciale parce qu'il n'arrive pas à assumer le conflit d'existence avec l'autre, donc il préfère le logiciel. Le logiciel, c'est le contact avec un écran. L'écran, ça veut dire pas de confrontation, pas de remise en cause, donc problème de communication, donc sûrement problème relationnel avec le père, donc difficulté de pénétration existentielle. Toi, t'enseignes. Pourquoi t'as choisi d'enseigner aux enfants? Pourquoi pas aux adultes? Parce que t'as l'impression qu'il existe moins, donc t'as pas de confrontation. Alors que l'adulte, c'est difficile de coexister avec quelqu'un qui existe, mais comme l'enfant, t'as l'impression qu'il n'existe pas. Donc t'es plus en sécurité avec l'enfant. Donc peut-être que quelque part, t'es un enfant. Comprenez ou non? Toi, t'as plus un travail sur plus dans le créatif. D'accord? Donc t'as peur de l'affirmatif. L'autre, il est plus dans la décision. Donc il n'a pas peur de se mouiller. Donc il y a des millions de manières d'interpréter ta personne par rapport à tes données. Mais si je dis non, 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 moi, je ne vais pas avoir d'interprétation. Moi, je ne vais pas regarder ce que tu es, je vais regarder ce que tu exprimes, c'est-à-dire ton contour. Ouais, ton contour. Tu me dis ça, tu me dis ça. Tu me dis que tu vas le faire, tu vas le faire. Ouais, mais tu sais, les gens ne tiennent pas leur parole. Mais je m'en fous, moi. Moi, qui me dit qu'il va le faire, il va le faire. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. C'est lui qui l'a dit. Il m'a dit, je suis un menteur. Vous comprenez ou non? Ah, mais pas du tout. Comment tu te permets de me juger? Non. Tu m'as dit, je vais le faire, tu l'as pas fait. C'est un menteur. Tu n'as pas de perpétuité. Bon, d'accord, tu me dis, ah, oh, moi j'aime beaucoup avoir des amis. D'accord, tu en as beaucoup, oui. Ils durent longtemps, non. Donc tu as un problème de sociabilité. C'est logique. Tu gardes pas longtemps ton travail, donc tu as un problème de perpétuité. Donc c'est toi qui l'as dit, c'est ton vécu. Ton vécu, il est plus objectif que ta personne. Alors je vais regarder le micro, je vais regarder l'entourage. Mais cette logique-là. Donc, quand la Torah l'a dit, Urtavtam, puisque chaque lettre, elle représente une personne, oui, c'est pour ça que les lois de l'écriture, elles sont extrêmement. Vous savez qu'il y a des centaines de lois, des centaines de lois pour chaque lettre. Tu dis, ouais, ça va. C'est la calligraphie, bon, tu fais de la calligraphie, bon, ça va. C'est de la calligraphie hébraïque, ils appellent ça, ouais. Donc, tu dessines un aleph, tu dessines un. Non, non, dans le Aleph, il y a une pointe de ce côté, il y a une pointe de ce côté, la barre, la longueur de la barre, la proportion de la barre par rapport au premier Yud, où est-ce qu'on place le premier, où est-ce qu'on place le deuxième, dans quelle direction il est, comme ça, comme ça, comme ça, si ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Des centaines de lois pour chaque lettre. Après, des lois dans l'ordre des lettres. Après, des lois dans l'ordre de la paracha. Oh là là! Mais tu es psychologue et sociologue. Psychologue, tu regardes l'individu, sociologue, tu le regardes dans une masse. Eh ben, il y a des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est l'urbanisme, c'est la relationnelle avec l'autre, c'est la gestion des priorités, c'est la hiérarchie dans l'entreprise. Ben, tu vois bien qu'il y a des règles. Donc, comme la lettre s'inscrit dans le Sefer Torah, la personne s'inscrit dans la société. Et c'est logique, là. Donc, la Torah, elle t'a enseigné la sociologie dans le Sefer Torah. Faut juste regarder. Il dit ce principe-là. Donc, tu vois bien que de dire que si j'ai une mezouza, si j'ai plein de Sefer Torah dans la maison, j'ai pas besoin de mettre une mezouza. C'est parce que tu as choisi un angle, toi. C'est que tu crois que le principe, il est de créer un impact. Alors, je dis, si j'ai un impact de 80 Sefer Torah, j'ai pas besoin de l'impact, de la mezouza. Mais qui t'a dit que c'est un problème d'impact? Peut-être c'est un problème de message. Peut-être c'est un problème de prise de conscience. Peut-être c'est. Il y a tellement d'angles. Alors, comment? Alors, Korach, il est venu. il a développé un principe. Il dit, mais on peut dire exactement l'inverse. Alors comment tu vas faire? Alors le problème, il est comme ça. Quand c'est marqué dans la Gada, vous savez, on lit tous les Dayenu. C'est marqué là-bas, Imeimidenu Be'arsinai Velo Natananu Tatora Dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait mis devant le mont Sinaï et nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Alors, il y a un rave, le Briskerov, il pose la question, il dit, je comprends pas, ça veut rien dire. Ouais. D'ici, par exemple, si Dieu nous avait mis dans le désert, il n'avait pas donné la manne. Ouais. On a dit, ça suffit. Bon, on aurait réussi à manger de d'ailleurs. Si nous avait donné, ça fait sortir d'Égypte, il nous avait pas donné les richesses, on aurait dit, ça suffit. Bah ouais, parce que déjà, on est sorti d'Égypte, ça nous suffit. Là, je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait été devant le mont Sinaï et on n'avait pas reçu la Torah, ça nous aurait suffi. Mais quel intérêt d'être devant le mont Sinaï? Je ne sais pas si vous me suivez. On n'est pas là pour faire du tourisme, d'accord? Donc les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Alors Dieu leur dit, écoutez, avant d'entrer en Israël, on va faire une petite balade, hein? Une petite balade, on va aller voir le Fujiyama, on va aller voir le mont Sinaï. Mais quel intérêt? On n'est pas des touristes. On est venu au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'était tenu au mont Sinaï et on n'avait pas reçu la Torah, ça nous aurait suffi. Mais on est venu pour recevoir la Torah, ça n'a aucun intérêt d'être devant le mont Sinaï comme ça. On dit au bon Dieu, bon on est venu, hein. C'est bon les gars, allez, la prise est bonne, allez on continue. Ça ne va rien dire, on n'est pas venu pour faire de la figuration devant le mont Sinaï, alors à quoi ça sert? Alors il dit un grand chidouche. Il dit le mont Sinaï, il correspond à quoi? À un changement dans la transmission de la Torah. Avant le mont Sinaï, comment les hommes y percevaient la Torah? Comment Avraham, Yitzhak et Jacob ils ont perçu la Torah? Comment tous les avotes, comment se transmettait la Torah? Eh bien, il y avait une base de transmission qui était basée sur une perception. C'est-à-dire que les gens, comme Avraham Avinu, on dit, il a imaginé toute la Torah. Mais enfin, ce n'est pas possible, ce sont des données divines qui ne peuvent être reçues et non pas perçues. Je te dis, oui, mais d'un autre côté, la Torah, tu l'as étudiée. Oui, avant ta naissance. Elle est contenue en toi. Donc, en vérité, notre problème à nous, c'est notre taux d'interprétation. Si vraiment on laissait parler notre Neshama, on recevrait la Torah. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas laisser parler notre Neshama. On veut laisser parler notre cerveau. Moi, je. C'est une religion en soi. Moi, ça s'appelle le MOI en tahitien. C'est le moi. Mais moi, j'ai mon idée. Moi, j'ai ma volonté. Moi, j'ai ma perception. Moi, j'ai ma personnalité. Moi, j'ai mes... Bon, alors, débrouille-toi. Mais si quelqu'un, il arrive à comprendre qu'en vérité, il n'est pas un fabricant, il est un transmetteur. Pour ça, je vous avais dit, le mot Ratson et le mot Tsinor, c'est les mêmes lettres. Ratson, ça veut dire volonté en hébreu. Et Tsinor, ça veut dire tuyau. Maintenant, l'homme, toute sa vie, va se poser la question. Est-ce qu'il est là pour être à l'origine ex nihilo d'une personne propre qui s'appelle lui et pour la développer ensuite? Il est le début, d'accord? Ou est-ce que non, en vérité, il est dans une grande chaîne qui s'appelle le monde et dans cette chaîne, lui, il est un morceau de tuyau? Il reçoit des éléments, il transmet des éléments. Il transmet à ses enfants, il transmet à ses élèves, il transmet à la société, il se transmet à son voisin. Il est là pour transmettre. Est-ce qu'il est là pour véhiculer la volonté de Dieu dans le monde? Ou est-ce qu'il est là pour projeter sa propre volonté? Sous-entendu, il est venu et un jour il est mort. Ouais. Alors on sait que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Vous comprenez ou non? Tu sais, quelqu'un va être là. Tu sais, après moi, le monde ne sera plus le même. Et c'est pas évident. La vie, elle va continuer. On va vous dire, oui, mais tu sais qui c'était, tu le connais pas, tu te rends pas compte, tu sais ce qu'il m'a apporté. T'énerve pas, mais c'est pas grave. Les parents, alors, allez-nous, on va les perdre un jour. Oui, c'est très dur, je pourrais pas, mon père, ma mère, moi aussi, tout le monde souffre. D'accord, mais d'un autre côté, c'est quoi l'éducation? Le temps qu'il est imparti à tes parents pour te côtoyer, c'est le temps qui est nécessaire pour créer les parents psychologiques qui reprendront la suite des parents physiques. Le père, il représente un petit peu le pôle intellectuel, et la mère, enfin au niveau de la structure mentale, et la mère, elle représente un peu le pôle émotionnel. Donc quand tu as un père et une mère équilibrés, et que tu as développé un père psychologique et une mère psychologique qui correspond aux deux hémisphères du cerveau, et au cœur, et à la raison, et à la conscience, et à la pulsion, donc quand tu as les deux, et bien un jour tu dis à ton père, c'est bon papa, je me débrouille. Et ton père il est tranquille. Donc tu as fabriqué un père psychologique et une mère psychologique que tu contiens en toi. Mais si toi à 38 ans, tu dis, il faut que je demande à mon père, qu'est-ce qu'il en pense, papa, 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 faut que je vais avec ma mère, parce que je me sens pas bien. Je me dis, maman, dis-moi que tu m'aimes, maman, dis-moi que tu m'aimes. Et mon fils, t'as 38 ans. Autonome, c'est automobile, ça se déplace tout seul, autonome, auto-homme, il faut être un auto-homme. faut être un auto-homme. Tu ne peux pas être perpétuellement en attente, en dépendance d'une chaise roulante ou d'une béquille. Tu peux pas, tu dis, mais quand même, c'est important les parents, il ne faut pas dire ça. Je t'ai rien dit, papa. Tu les respectes, tu les adores, tu leur donnes, tu te sacrifies pour eux, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même penser qu'il y aura un après. Comme il y a eu un avant, avant que tu viennes au monde. Alors tes parents, alors tu étais quoi toi? Avant que tu viennes au monde, tes parents, ils n'existaient pas. Ils existaient. Et après, tu vas partir. Après qu'ils vont partir, tu vas continuer à exister. Et quand tu vas partir, il y en a d'autres qui vont exister. C'est pas grave. Vous arrivez à survivre à ça ou vous dites, oh, je suis le monde. Après moi, il n'y a rien. Quel intérêt que le monde continue à exister après ma disparition? Non, c'est pas grave. Je suis une particule élémentaire dans un monde de fous. D'accord? Donc, c'est quoi cette logique? Cette logique, c'est que jusqu'au don de la Torah, c'était une perception. À partir du don de la Torah, c'est une transmission. Dans la perception, il y a un taux aléatoire qui est très très puissant. Dans la transmission, il y a des règles. Il y a des textes, il y a des lettres, il y a des règles de transmission, il y a des règles d'interprétation, il y a des règles de lecture. On ne fait pas n'importe quoi. Comprenez, c'est pas quelqu'un qui a dit, tu sais, moi, bon, j'ai pris un passouk, j'ai pris un verset de la Torah, je me suis permis d'écrire. C'est quand même un texte qui est étudié depuis 3500 ans. Tu ne perds rien d'essayer d'adhérer aux lectures qui ont été faites précédemment. C'est pas grave, je veux dire. Tu veux absolument écrire. Moi, j'écris mon livre, d'accord? Quelqu'un m'a dit, oh, bah écoute, il n'y a pas grand-chose de nouveau. J'ai dit, j'ai pas cherché à amener quelque chose de nouveau. J'ai pas cherché du tout, c'est pas mon but. D'accord? C'est pas du tout mon but. Au contraire, je préfère m'inscrire dans une logique de bon sens où chacun se reconnaît. Moi, mon kiff, c'est quand quelqu'un vient à la fin d'un cours, écoutez, c'est incroyable ce que vous dites, j'ai toujours pensé, mais il me manquait une trame et vous avez donné une trame. Mais c'est bien pour moi. Parce que si moi je viens, ça veut dire que vous êtes tous des brêles, parce que vous comprenez rien. C'est moi qui vous explique tout. Alors, vous allez chercher où est l'erreur. C'est-à-dire, tu te gourres où? Ça s'appelle un gourou. D'accord? Non, 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 non. Non, vous avez des cerveaux, moi j'ai un cerveau, on est des gens intelligents, ouais. Vous avez des idées, vous avez des choix, vous avez des propositions, vous avez des impulsions, c'est normal. Après, on essaie de créer un pont de communication, et vous, vous vous reconnaissez dans certains éléments, ou non, c'est pas grave. J'ai toujours dit que moi, le cours, je l'ai fait pour moi, et s'il y a des fous qui assistent, tant pis pour eux, d'accord? Mais le principe, c'est quoi? C'est qu'on fabrique quelque chose, comprenez ou non? C'est pas si l'autre, c'est une sommité, une entité en soi, et les autres, c'est tous des brels. Non, 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 c'est dangereux, ça. C'est qu'on fabrique des handicapés. Si on veut fabriquer des indépendants, la plus grande joie d'un père, c'est que ses enfants, ils soient indépendants. Mais s'ils disent, non, je veux que jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de leur mort, ils me demandent mon avis, il a fabriqué des débiles, c'est dangereux. C'est exactement le même principe. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une dépendance, mais qui soit entièrement liée au divin et au texte. Au divin et au texte. Il dit, donc maintenant, Korach, lui, il a une perception qui est différente. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, je réfléchis, et je me débrouille tout seul. Korach, Moshe dit non. Il dit, je regarde, d'accord, ce que je reçois. J'essaie de comprendre ce que j'ai reçu. C'est deux approches qui n'ont rien à voir. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais quelle différence entre les rabbins et les scientifiques? De toute façon, vous arrivez aux mêmes conclusions. J'ai une différence de folie. C'est que le scientifique, il ne veut pas avoir d'a priori. Donc, il pose plein plein de questions dans l'espoir d'essayer de trouver une démarche qui soit intellectuellement intelligible et qui soit vraie. Pas vrai parce que c'est trop, mais disons logique, parce que vrai c'est déjà moral. Vrai, mais logique. Nous, on est le contraire. Nous, on connaît déjà la vérité. On l'a déjà reçu. Ouais. Tout est marqué. Maintenant, on va poser plein de questions pour essayer de comprendre ce qu'on a reçu. Eux, ils vont poser plein de questions dans l'espoir, ouais, de trouver quelque chose. Alors, à part la perte de temps qui est énorme, parce que quand tu te casses la tête, tu poses plein de questions, bah, tu peux tomber à côté facilement. À part ça, il y a la base de la réflexion, à mon avis, à mon humble avis, c'est qu'il manque la sérénité. Parce que quand toi, tu es convaincu, ouais, qu'il n'y a rien de posé, et que toi, tu essaies d'établir quelque chose, donc il y a un malaise chez toi qui s'appelle le malaise de l'ignorance, qui va handicaper ta perception de la réponse. D'accord? Alors que celui qui a la réponse, il a déjà la sérénité de la réponse. Il sait que c'est vrai. C'est le bon Dieu qui l'a dit. C'est vrai. Mais non, il va se casser la tête. Tu as le droit de poser toutes les questions que tu veux, ma Torah. Moi, je veux vous dire que j'ai fait à peu près 5000 conférences. J'ai jamais entendu une bonne question. Je vais croire, ouais, je vais lui éclater la tête. Bah, au rabbin. Jamais. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi c'est normal. Parce que celui qui pose une question, souvent à la suite d'une conférence, c'est par rapport au malaise que la conférence a créé chez lui. Donc comme ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de réaction. Une question de réaction, elle est toujours superficielle. Genre tu me déranges, tu me remets en cause, tu me pousses. Non, 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 je te... Par contre, les rabbins, dans la Guémara, dans les commentaires, ils posent des questions. Tu dis, mais attends, un rabbin, il peut poser des questions comme ça. Mais oui. Parce que quand tu es à l'intérieur, ouais, et que tu es libéré du malaise de la question, ou du malaise de l'ignorance, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Qu'est-ce que tu risques? Par contre, quand toi, tu as peur que la connaissance, elle t'impose quelque part, au niveau de ton corps, ou ta pulsion, ou ta conscience, alors tu es en train de te battre avec la vérité. Donc tu ne peux pas l'aborder. Parce que tu as déjà un malaise à l'existence, à la coexistence avec la vérité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu n'es pas prêt à accepter de ne pas comprendre, tu n'as aucune chance de comprendre. Ça, je vous avais demandé une fois la question, est-ce que celui qui comprend, c'est celui qui accepte de ne pas comprendre ou celui qui refuse de ne pas comprendre? Celui qui refuse de ne pas comprendre, comme il a créé un malaise par rapport à l'incompréhension, donc quand tu lui expliques, ça l'énerve. Donc il refuse. Donc il faut d'abord le draguer pour lui expliquer que ce n'est pas grave si on lui explique et ensuite lui expliquer. La preuve, vous posez une question à quelqu'un, si vous lui donnez la réponse tout de suite, il dit ouais, c'est une réponse, c'est une question, c'est une réponse. Mais si vous posez une question à quelqu'un et vous lui donnez la réponse 3 mois après, il aura du mal à accepter la réponse. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la question est devenue un problème. Parce que maintenant, il a le malaise de l'incompréhension. Il se sent nul. Donc, ce qui était une question intellectuelle, qui attendait une réponse intellectuelle, elle est devenue maintenant un problème existentiel. Alors, il faut que j'arrive d'abord à te rassurer sur la non-gravité du fait que tu n'as pas compris, pour ensuite que toi, tu aies l'ouverture d'esprit pour comprendre ce que je vais te faire comprendre. Ça va? C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas expliquer, c'est de susciter. Parce que quand tu suscites, le mec, il a l'impression que c'est lui qui a compris. Donc il se dit, oh, je suis d'accord. Il n'est pas d'accord avec toi, il est d'accord avec lui. Parce que l'écran de l'orgueil, il est tellement puissant. Ouais. L'amour-propre, le malaise de l'incompréhension, le sentiment de nullité, le sentiment d'ignorance, est tellement puissant. Que tant que quelqu'un ne s'est pas libéré intellectuellement, il peut dire, eh ben je sais rien, c'est pas grave. Eh ben oui, j'ai étudié 20 ans et je comprends rien, ben c'est pas grave. C'est pour ça que c'est les très hauts niveaux de scientifiques qui arrivent à dire je sais rien. Mais tous les intermédiaires, je maîtrise, je t'explique, je construis, je développe, un peu de modestie. Moi, j'ai rencontré des très très grands médecins, des physiciens, ils te disent, mais au fond, on comprend rien. Ouais, mais tous les intermédiaires. Maître de conférence, très loin, baba, ils sont obligés. Parce que comment ils vont te rassurer s'ils ne sont pas rassurés? Je ne sais pas si vous me suivez. Comme un médecin, si tu dis, alors ma fille va s'en sortir. Écoutez, franchement, j'en sais rien, je maîtrise rien, je comprends rien. Je dis, pourquoi vous n'êtes pas plombier? Pourquoi vous êtes chirurgien? Donc il est obligé, écoutez, il n'y a pas de problème, madame. Écoutez, nous avons tout à fait en main. Votre fille est suivie à 100%. Nous avons des armes, nous avons un principe, une grande perception, beaucoup de cheminement, 3 protocoles, 8 principes. Il a l'air de maîtriser son truc. Mais ça ne veut rien dire. Un bébé, il fait 8 kilos. D'accord? Un microbe, il met à peu près 2 minutes pour faire le tour du système sanguin. Tu crois qu'au moment où le signal d'alarme, il sonne pour dire que l'enfant, il est en train de faire un arrêt cardiaque, tu crois que le mec, il a le temps de réagir? Ça ne veut rien dire. Alors les médecins honnêtes, ils te disent, nous accompagnons l'enfant dans ses efforts pour lutter contre la maladie. Et les médecins malhonnêtes, ils disent, écoutez, nous avons un certain appareillage, mais qui ne fait qu'accompagner notre perception et notre efficacité dans la manière de gérer la maladie. Ils se prennent pour le bon Dieu. Ils sont dangereux, ceux-là. Oui. Mais les gens normaux, juifs ou pas juifs, ça n'a aucun rapport. Des gens qui comprennent qu'en fin de compte, le corps, c'est une très très grosse machine, extrêmement puissante, et qu'elle va faire ce qu'elle a à faire. Et on l'accompagne. On l'aide un peu, on l'encourage un peu, on la préserve un peu, on ouvre un peu le chemin. Ça, c'est comme au bowling, là. C'est bowling, ça? Oui. Le type devant, il nettoie là pour que ça glisse. Comment ça s'appelle? C'est au bowling, ça? C'est quel jeu, ça? Un truc plat, là, un gros truc. Ah, vous avez gagné? Curling. Il y a un type devant qui nettoie. Ouais. Ben, c'est pareil. Le médecin, il va mettre un anticoagulant, comme ça, la fluidité du sang, elle va éviter un arrêt cardiaque. Mais il va pas te faire un nouveau cœur. Ton cœur, ton sang, c'est ton sang. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Il accompagne. Il dit cette logique-là, ça s'appelle la modestie devant la réalité. Il y a exactement la même logique devant la connaissance. Est-ce que moi je vais avoir la modestie de comprendre que je vais recevoir quelque chose ou alors je vais avoir l'arrogance de croire que je vais percevoir quelque chose? Vous voyez la différence entre les deux? Et c'est le même principe toujours. C'est est-ce que je suis à l'origine des choses ou est-ce que je suis un vecteur? Est-ce que je reçois et je transmets Je dis, non, non, tu le sais, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, j'ai besoin de personne. De toute façon, moi, j'ai tout refait à partir de moi-même. Ouais. Je dis, la seule création qui a été faite à partir du néant, c'est le monde. Après, ça vient de quelque part. Tu viens de quelque part. Les psychologues, ils vont dire, ça vient de ton inné. Comment ça s'appelle les généticiens, ils vont dire que c'est inscrit dans ton patrimoine. Les rabbins, ils vont te dire que ta neshama, il a déjà vécu des choses. Chacun, il va t'expliquer que tu es un vecteur. Dans la chaîne, tu es un maillon. Tu viens de quelque part, tu vas quelque part. Maintenant, essaie d'être un bon vecteur. C'est pas grave. C'est pas grave. D'être un bon vecteur, c'est bien. Comprenons-nous. Moi, j'ai appris de mes maîtres pendant 20 ans. J'essaye de transmettre un petit peu de ce que j'ai reçu d'eux. Bien que moi, je me considère comme un goy par rapport à mon rave, tellement il est haram. Ouais. Alors, mais j'essaye d'être honnête par rapport à ce que... Mais c'est difficile, parce qu'il y a une tentation de dire de sa tête, d'inventer des trucs, les gens, ils sont là, tu les sens, tu dis, ah, super, je vais faire un concert, c'est dur. Tu dis, non, attention, t'es un rave, t'as une responsabilité, les gens, ils retiennent ce que tu dis, ils tiennent compte, pour eux, c'est des phrases, ils les gravent dans leur esprit. Il faut être déjà un bon transmetteur, c'est énorme d'avoir cette exigence intellectuelle d'être un bon transmetteur. T'as pas besoin d'être un créateur. C'est pas un départ en toi-même, c'est pas grave, tu viens de quelque part. Moi, tous les jours, je bénis mes grands-parents et mes parents et mes arrière-grands-parents pour tout ce qu'ils ont fait qui m'ont permis de faire ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas croire qu'avant moi, il n'y avait rien, c'était tous des brels et je suis venu et la lumière est arrivée dans le monde. Détends-toi, bah, ça va aller, c'est pas grave. On est tous des ampoules, un jour, on va claquer. Oui. Donc, c'est pas grave. Donc ici, le principe, c'est quoi? C'est que cette différence étonnante entre Korach, attention, il ne faut pas dénigrer parce que Korach était extrêmement intelligent. D'après le Zohar, Korach, c'est même un tzaddik. Oui. Dans le pshat, dans le sens littéral, c'est un rachat. Mais dans le sens profond, c'est un tzaddik. Donc maintenant, seulement qu'il avait choisi une autre démarche. Maintenant, des fois, même si au départ, les deux démarches, elles sont extrêmement proches, ouais, parce qu'il connaissait tout le Talmud par cœur, Korach connaissait toute la Torah. Il a étudié la Kabbalah, il connaissait tout. Et Moshe aussi, alors c'est exactement pareil. Vous savez, à Cap Canaveral, à Cap Kennedy, là-bas, quand on calcule la trajectoire d'une fusée, si on se trompe un degré, c'est un degré au départ, mais à l'arrivée, c'est une autre planète. Parce que... Donc des fois, là, t'as l'impression que ça se ressemble, mais après, au loin, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut être très très vigilant de qui on apprend, de qui on reçoit, qui on côtoie. Parce que des fois, c'est tous des rabbins. Fais attention, hein. Oh, c'est des gens qui réfléchissent. Fais attention, hein. Il y a des brels intelligents. Moi, j'ai vu des gens qui ont des diplômes de doctorat et qui sont bêtes. Mais bêtes. Non, pas comme ça. Ahmar, bête. Vraiment bête. Oh, tu réfléchis pas. Le mec, il est chargé de communication dans une boîte de communication qui vend de la communication. Il n'arrive pas à communiquer avec son fils. Je dis, on va commencer par le début. Ça n'a rien à voir. L'autre, il est gestionnaire. Il gère 12 000 personnes. Il n'arrive pas à gérer 4 enfants. Il dit, oui, mais l'émotionnel, c'est pas comme le professionnel. Dans le professionnel, il y a un cadre qui est défini, il y a des règles, mais là, c'est difficile. Il y a d'autres règles. Mais les schémas, c'est les mêmes. Tu prends les schémas, tu les transposes. Seulement là, il faut plus d'huile, et là, il faut plus d'acier dans le moteur. Mais c'est les mêmes schémas. Alors, comment ça se fait que tu es complètement. Tu es hyper cohérent ici, tu es hyper incohérent ici, tu es hyper efficace ici, et complètement perdu de ce côté? Pourquoi tu n'utilises pas ton expérience, ta force d'affirmation et tes schémas électroniques dans les données qui t'intéressent? Il dit, non, mais là, je suis perdu. Là, je perds complètement mes moyens, je vois le visage de mon père, je me sens nul. Attends, t'as 120 000 employés. J'ai parlé une fois avec un type comme ça. 120 000 employés, c'est lourd. Usineur, c'est silence, c'est gros quand même. Ouais. Je dis, mais il me dit, je suis perdu, j'arrive plus. Je comprends pas, tu gères 120 000 employés, t'arrives pas à gérer 3 enfants. Perdu le mec. Et la logique, c'est le principe, c'est ça. C'est que si toi, tu t'effaces devant ton projet, il te porte. Mais si toi, tu penses que tu es à l'origine du projet, et bien à un moment, tu arrives au bout du projet. C'est le principe du surfeur. Vous rappelez le surfeur ou non? J'ai eu plusieurs fois l'exemple du surfeur. Vous rappelez ou non? Non? C'est une forme d'illusion d'optique. Un surfeur. Vous voyez, il y a une vague. Elle est énorme, la vague. Une vague. Vous voyez la vague, là, en Californie, là. Énorme. Ça, 300 millions de tonnes d'eau. Et il y a un surfeur. Mais il est bon, le mec. Hein. Il surfe bien. Il bouge un peu le pied par là, il passe en dessous de la vague, il passe au-dessus de la vague, il rentre dans le creux de la vague. Tu dis, quel puissant. Mais non, franchement, même si le mec, c'est un super surfeur, non mais vraiment un très très bon, il est champion du monde, toute catégorie. Est-ce que lui-même, qui sent qu'il maîtrise son surf, est-ce qu'il a l'impression qu'au moment où il appuie sur le surf, il maîtrise aussi la vague? sais pas si vous me suivez. Comme par exemple, tu appuies sur un tapis, tu fais un pli sur le tapis. Imagine le mec qui croit qu'au moment où il est en train d'appuyer sur le surf, il est aussi en train de fabriquer la vague. Non, il est brel ou quoi, lui? Et cette logique-là, c'est pareil. On est sur une vague. La vague, elle s'appelle la vie, elle s'appelle la famille, elle s'appelle les enfants, elle s'appelle l'enthousiasme, elle s'appelle la réussite, elle s'appelle l'échec, elle s'appelle le bonheur, elle s'appelle l'angoisse. C'est une vague. La vague existe. Mais nous, on surfe sur la vague. Maintenant, il y a des gens qui croient qu'ils maîtrisent la vague. La vague, elle existe, elle n'a pas besoin de toi. Vous comprenez cette logique-là ou non? On est des surfeurs. On n'est que des très bons surfeurs, au maximum. Mais on ne fabrique pas la vague. La vague, elle est partie de très loin. La vague, comment ça s'appelle? À Los Angeles? Ah bon? La vague, elle est partie de Tahiti. C'est loin, hein? C'est 4 heures d'avion. Elle est partie de là-bas, la vague. Toi, tu crois que t'as fait la vague? Tu sais, j'ai un problème avec mon fils. Et papa, ton fils, c'est le guilgoul de ton arrière-grand-père. Tu crois que la vague, elle a commencé avec les problèmes scolaires? Elle a commencé il y a longtemps. Quand il a fait ton arrière-grand-père, il a fait des attouchements sur la cousine. Ah, t'es pas au courant? Bah, c'est pas grave. Donc, c'est parti de là-bas. La vague, elle est partie de là-bas. Ah, maintenant, il met la main dans la culotte des petites filles à l'école. Sache que la vague, elle a commencé de là-bas. Donc, toi, tu surfes sur une vague. Tu crois que tu fabriques de la vague? Ouais, cette logique-là. Et dans tout, c'est pareil. Tu vois, vous savez, je maîtrise le business. Non, tu crois que tu aides les gens? Non, c'est leur mérite à eux, c'est pas ton mérite à toi. C'est toi qui surfes sur leur mérite à eux, c'est pas toi qui fabriques leur mérite à eux. Faut pas être un peu bahad de se prendre pour le bon Dieu. Il dit, cette logique-là, il dit, c'est une chose qui a échappé à Korach. Que Korach, lui, il a pensé, non, moi je vais réfléchir, moi je vais comprendre, moi je vais développer. Moshe, il a dit le contraire. Non, moi je reçois, j'accepte, et à partir de là, j'essaie de comprendre, à partir des éléments que j'ai acceptés. Ah, ça a l'air d'être restrictif. Qu'est-ce que quelqu'un dit? Bon, écoute, tu prends la Torah, tu l'acceptes. C'est restrictif parce que quelque part, c'est un peu, ils appellent ça du jésuitisme. Donc toi, c'est une pensée qui est conçue, qui est reçue, et puis c'est tout. Et puis après, tu essaies de la perpétuer. Non, c'est pas vrai. Tu prends des données, mais à partir de ces données, tu vas passer ta vie à te mesurer avec ces données. La Guémara, tu vas la relire, tu vas la développer, tu vas l'écrire, tu vas la penser, tu vas la dessiner, tu vas la sculpter, tu vas la démonter. La même Guémara, après les millions de Guémarotes, après les liens entre les Guémarotes, après les psukim, après les gens, après le vécu, après la chimie, la biochimie, la Guémara, la chimie, la sociologie et la chimie, et la Guémara, et la médecine, et la Kabbalah. C'est infini l'histoire. Comprenez ou non? Les gens disent, oh, j'ai étudié trois ans, c'est bon, je maîtrise. Dibli neder, ouais. Il dit, ces principes-là, c'est quoi? En fin de compte, c'est une espèce d'ouverture. Ça, le Gaon de Vilna, il dit, l'imbécile, il rentre à la salle d'études et il parle. L'intelligent, il rentre à la salle d'études et il se tait. Parce que celui qui parle, il sait ce qu'il va dire. Donc, il ne va rien apprendre. Par contre, celui qui écoute, il a une chance sur deux. Soit il va entendre quelque chose qu'il connaît déjà, soit il va entendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il a plus de chances d'apprendre que celui qui va parler. Il dit, bah, c'est exactement pareil. Ton débit existentiel, ton rapport avec la vie, c'est un rapport dans l'acceptation ou c'est un rapport dans la projection? Comme des gens qui n'arrivent pas à se retenir. Écoute, tu leur parles. Écoute, je vais te dire, voilà ce que je pense, voilà mon point de vue. C'est pas grave si tu dis pas ce que tu penses. C'est pas grave. Ouais, mais moi j'ai une autre vision des choses. Ouh, moi, ça m'étouffe. Je peux pas écouter pendant 2 heures. C'est pas grave. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour exprimer. Maintenant, est-ce que l'expression, c'est une façon de repousser la connaissance extérieure? Ou l'expression, c'est une manière d'utiliser la connaissance extérieure. Encore une fois, est-ce que tu es un tuyau ou est-ce que tu es un départ en toi-même? Cette logique-là, ça veut dire que ce n'est pas Korach en lui-même. Oui, c'est le grand problème de l'homme. Est-ce que quelqu'un, il doit être dans l'acceptation ou est-ce que quelqu'un, il doit être dans la réflexion? Maintenant, l'erreur, c'est de croire que l'acceptation, elle se fait au détriment de la réflexion. C'est faux. C'est seulement que l'acceptation, elle te donne une sérénité mentale qui fait que tu peux réfléchir. Tu dis, ouais, mais si je connais la conclusion, quel intérêt? Qu'est-ce que je vais amener de plus? Qu'est-ce que je vais... C'est pas grave. Qui t'a dit que t'es là pour amener? Comprenez ou non? C'est comme un tableau. Tu le regardes, tu le vois. Après, tu te vas à un spécialiste. Il te dit, bon, je vais t'expliquer c'est quoi ce tableau. Tu dis, non, mais je le vois. Il dit, attends, je vais vous expliquer. Oui, il a commencé par ça. Après, ces couleurs-là. Regardez ce qu'il a voulu exprimer par là. Regardez les yeux là. Pourquoi les yeux de l'enfant, ils sont flous alors que toute l'image, elle est nette? Il dit, j'avais pas fait gaffe. Parce qu'il exprime quelque chose à l'enfant. La perception de l'enfant, dans la réalité, elle n'est pas la même que celle de l'adulte. Regardez maintenant, pourquoi il a trois yeux, l'adulte, et l'autre, il en a deux? Écoutez, je pensais que c'était un côté comme ça, un petit peu arbitraire du poète qui a voulu exprimer ta sœur, oui. Il a trois yeux, l'adulte, parce qu'il a deux yeux pour voir et l'œil de l'esprit. Celui-là, il ne se perçoit pas. C'est celui-là qui est crevé, des fois, quand on dit tu te mets le doigt dans l'œil. C'est pas là, c'est là. C'est celui-là qui ne voit plus. Donc l'adulte, il n'a pas. Ah, si, j'avais jamais regardé le tableau comme ça, vraiment. Donc c'est le même tableau, mais l'autre, il t'a aidé à avoir une autre perception. Donc si tu dis, écoutez, je l'ai vu, hein, écoutez, c'est pas la peine de. Comme les gens qui disent, écoutez, moi je suis un bélou, la sortie du bon, ça va, je veux dire, bon, j'ai vu le film, bah. Il a rien compris, en réalité. Il a rien compris. Tu peux rester toute ta vie à étudier les fourmis et encore trouver quelque chose de nouveau. Alors tu dis, mais écoutez, les fourmis, écoutez, c'est un insecte, hein, et puis c'est tout. Mais toi aussi, t'es un dans une secte, en fin de compte, t'es un insecte, d'accord? Ça n'a aucun sens. Il cette logique-là. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a développé cette capacité qu'il a transmise ensuite. D'être capable d'accepter les choses et ensuite de réfléchir dessus. Alors que l'autre, il a fait le contraire. L'autre, il a dit non, moi j'ai mon mot à dire. C'est-à-dire que moi je vais imposer ma perception ouais, dans la chose et après je vais voir dans quelle mesure elle peut coller. Pour ça, souvent les gens ils étudient ou ils viennent à des conférences ou quoi, et ils veulent savoir quand est-ce que le rabbin il va dire comme eux. Alors il lève la main, il dit ah, je voulais vous dire, oui, bravo, vraiment, c'est bien ce que vous dites. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec vous. Je démarre pour le reste du cours, vous n'avez pas levé la main. Donc vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais là je tenais à vous dire que sur ça je suis d'accord. Pourquoi tu es venu? C'est dommage, tu restes 2 heures pour une phrase. C'est une logique d'entonnoir. Ouais. Une logique d'entonnoir. Un entonnoir, il est large à l'entrée, il est fin à la sortie. Il y a des gens qui mettent l'entonnoir à l'envers. Il est fin à l'entrée, il est large à la sortie. Après il dit, oh, je comprends rien. De toute façon, je comprends rien. Et puis moi, je suis d'accord avec personne. Et puis je me mets d'accord sur rien. Puis j'ai ma propre perception. Non, la Gemara elle dit pas comme ça. La Gemara elle dit, tu apprends d'un rave, tu apprends bien. Après, tu apprends d'un deuxième. Après, tu apprends d'un troisième. Après, tu commences à comparer. Jamais la Gemara elle dit, tu te mets seul devant un truc et tu commences à réfléchir. Comment tu sens là? Ça te fait quel effet là, la Gemara, la brise de Bretagne et les coquelicots qui viennent d'être coupés? Ça te fait quel effet au niveau de la perception mentale de la Mishnah? Encore une fois, tu vas chez le rave, t'apprends. Et tu te la fermes. Ah non, je peux pas avoir. C'est trop dur. Tu te la fermes. Pendant des années, tu te la fermes. Quand tu as bien appris, tu apprends chez un deuxième. Attention de ne pas apprendre de quatre en même temps. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont la veille à une conférence sur l'euthanasie et la Torah. Le lendemain soir, ils font un cours de Tanya. Le troisième, ils font un cours de Talmud. Après, ils font un Olpan en hébreu. Après, ils font 2 pages de Hassidut. Après, ils font. Après, tu t'étonnes que les mecs, ils ont des têtes bizarres. Je suis vachement troublé, Rav, j'ai pris un médicament, mais j'ai peur que le Gilgoul du Baal Shem Tov ne soit pas d'accord avec mon médecin. Non, c'est pas comme ça. Il faut choisir un Rav et rester avec ce Rav jusqu'à ce que ta tête elle ait une certaine autonomie intellectuelle. Après que tu as appris chez ce Rav, tu peux prendre un deuxième et comparer pour développer autre chose. Après, la perception de ce qui va ressortir chez toi des deux, c'est ton approche personnelle. Vous avez suivi ou non? Oui, bien sûr. Faire très très attention. Le pluriel, c'est l'ennemi du singulier, vous êtes au courant. Faire attention. Parce que je vois les gens sont perturbés. Bah, pourquoi j'ai commencé à donner des cours il y a 20 ans? À cause de ça. Parce que je parlais avec des gens dans la rue. Nous, on n'a pas compris. Moi, j'ai passé mon bac, je suis rentré à l'échiva. Donc j'ai appris. Mais je vois les gens à Paris complètement perturbés. L'euthanasie, la Torah, la politique, Israël, le chassidut, le sionisme. Je vois les mecs complètement perdus. La tête, à l'envers. Comme si vous prenez un billet de. Vous prenez 4 billets, un billet en dollars, 1 euro, un billet espagnol, un billet truc, vous déchirez en 1000 morceaux, et puis après au moment de payer, vous dites tiens tiens, il y a de quoi là, vas-y, paye-toi. Mais je paye quoi là? C'est n'importe quoi. Ils ont le cerveau comme ça, les gens. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Parce qu'il y a une école. Tu apprends chassidut. Bien, forme-toi bien chez les Lubavitch, c'est bien. Tu apprends à la yeshiva, apprends bien. Tu apprends là-bas, apprends bien. C'est pas grave. Déjà, forme-toi la tête. Après que tu as. En fait, c'est une langue. C'est comme une langue. La pensée, c'est comme une langue. Moi, j'ai connu un professeur de langue. Il parlait 26 langues. Non, il connaissait 26 langues et il parlait 10 langues couramment. C'est pas mal. C'est un professeur à Odessa. Après, il était en France pour le dessert. Oui. Et il m'a expliqué un principe. Il m'a dit, pour apprendre. Lui, il avait appris l'hébreu, parce qu'il était en Russie, là-bas, c'était interdit à l'époque, l'hébreu. Il a appris l'hébreu en captant l'hébreu sur la radio, en cachette, parce que c'était interdit d'écouter la radio à l'époque. Ils allaient au goulag directement. Il m'a dit un truc. Il m'a dit, pour parler une langue, il faut connaître 3000 mots et des règles de base de grammaire et de syntaxe. Maintenant, dès que tu as absorbé les règles et les mots, il se fait un mélange dans ta tête, et les phrases, et ce truc. Après, il faut pratiquer. Ça va? Ça va, oui, non? Eh bien, la pensée, c'est pareil. La pensée, c'est pareil. Il faut apprendre 10 000 principes et après connaître les règles de gestion de la pensée. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs écoles de pensée et il y a plusieurs niveaux de pensée. Mais si toi, tu apprends 10 langues en même temps, tu dis, ah, je comprends rien, c'est normal. Eh bien, la pensée, c'est pareil. Tu dois apprendre une école de pensée et quand tu es bien dans cette école de pensée, c'est pas grave. Moi, je parle avec des chassidim et je parle avec des gens qui sont des yeshivot et je parle avec des juifs et avec des goïms et avec... Pourquoi? Parce que quand je maîtrise mon domaine, après je peux absorber un deuxième domaine, après un troisième domaine, après un quatrième domaine. Mais si, au moment où je suis en train de plaquer le premier, je mets le deuxième, et avant qu'il soit sec le deuxième, je mets le troisième, après je dis, ça fait une espèce d'embrouille très loin. Les gens, ils ont une tête très loin. Ils savent plus. Ah, tu sais, le rabbin, il a dit, mais nous, on écoute les anciens, et c'est pas évident parce que le rabbin, il a dit comme ça, et j'ai vu dans un film ça, et tout à l'heure, j'ai lu la Sira, et après, j'ai vu un article truc, et dans l'enjeu là-bas, il disait que le sionisme. Mais tu vois que les gens, ils sont perturbés. Mais ça vient de ça. Assez les rav. Assez les rav. Tu prends un rav et tu suis. Après, maintenant, plus tard, tu veux changer de rav. C'est une mitzvah, c'est bien. Comment non, tu vois, mais c'est une forme d'infidélité. Mais non, encore une fois, le rave, c'est un vecteur, c'est un accompagnateur. Donc quand t'as eu ton autonomie par rapport à lui, ça y est, maintenant t'as compris, eh ben, tu peux changer de niveau, tu peux aller chez quelqu'un d'autre, c'est bien, c'est une mise va. Comme quand t'as quitté ton prof de CP pour aller en CE1, tu dis pas, oh, c'est une trahison, je vais rester au CP. Maintenant, tu grandis. Il dit, cette dimension-là, c'est une dimension où quelqu'un, il arrive à avoir cette logique que quoi ? Que d'abord il accepte, il grandit avec ce qu'il a accepté, il réfléchit dans ce qu'il a accepté, et encore une fois, on peut poser toutes les questions qu'on veut quand on accepte. Mais si on n'accepte pas, les trois quarts des questions sont faits pour expliquer pourquoi on refuse. Comprenez ou non? Ah, pourquoi c'est comme ça dans toi? Et qu'est-ce que c'est pas normal? Mais avec qui tu te bats? Je comprends, t'as rien demandé. Tu veux manger du porc? Mange du porc. Tu veux épouser la Goya? Épouse la Goya. Tu veux être Mechalal Shabbat? Qu'est-ce que t'as besoin de dire? Oui, mais j'ai vu des religieux, et j'ai vu la religion, et il y a des contradictions. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème? J'arrive pas à te comprendre. Comprenez ou non? C'est comme si moi, je fais le Paris-Dakar, alors je vais dire aux mecs qui font pas le Paris-Dakar, ouais, ou faites le Paris-Dakar, faites pas le Paris-Dakar. Mais si tu veux faire le Paris-Dakar, fais le Paris-Dakar.
On a besoin de se justifier, ça nous dérange.
Qui, par rapport à lui, par rapport à nous?
La personne qui veut faire la chose.
Mais non, je parle de la personne qui veut pas. La personne qui veut pas, oui, elle pose des questions dans la Torah. Ouais.
La personne qui veut se marier avec la Goya, ça la dérange quelque part de pas être en accord avec tous ceux qui sont autour d'elle.
Mais pourquoi?
Donc elle se justifie.
Mais c'est un choix qui lui appartient.
Oui, mais elle veut le justifier.
Donc, ah, donc elle n'est pas en cohérence avec elle-même. Donc c'est pas l'autre qui dérange, c'est pas la Torah, c'est elle-même. Donc c'est un problème psychologique, ça. Il faut aller voir un psychiatre. Mais c'est pas grave. L'incohérence, c'est un problème mental. Il faut se travailler. Comprenez ou non? Dans tout, c'est pareil. Tu manges cachère, tu. Ouais, ça sent la cachoute, ça sert à rien. D'accord, mais alors, mange ta ref. Ah non, on mange cachère à la maison. Je comprends, mais t'es un malade. T'as deux estomacs, quoi. T'as un estomac pour dehors, un estomac pour dehors. Ils sont bizarres, les gens. Comprenez ou non? Tu voles ou non? Ah non, je vole les clients, mais ma famille, je fais attention. Mais ça a été bizarre. Ou tu voles ou tu voles pas. Si, c'est logique. Alors, ça fait des espèces de mutants. Des gens comme ça, double personnalité, triple personnalité, quadruple personnalité. Des fous, des malades, des gens qui. Après, il dit, ouais, la religion, ça déstabilise. Mais t'as mis ta tronche. Comment est cette logique-là? Il dit. Non, c'est les gens qui étudient à mi-temps, en fin de compte. Ouais. Il dit, la logique, c'est quoi? Non, c'est une blague, faut pas le prendre mal. Non, c'est au contraire. Ouais. Non, je parle qu'ils réfléchissent à mi-temps. Donc, dans le travail aussi, il faut réfléchir. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué dans Rashi, alors on a dit à la parasha Troukat, qui vient le Satan et les Umot HaOlam. On a dit que le Yetzera, enfin le Satan et les peuples du monde, ils viennent, ils posent la question. Ouais. Ils demandent qu'est-ce que c'est cette mitzvah là, de Chok, de Paradouma, de Vachrous, et elle n'a aucun sens et tout ça. On a demandé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que le Satan il vient et les peuples du monde ils viennent? Ça veut dire quoi? Alors, on a expliqué déjà plusieurs fois, Ugema, que vous devez sûrement connaître par cœur tellement je l'ai répété, que l'Agma a dit dans Baba Batra, Daftet Zayin, ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Malach HaMavet. En vérité, il y a un ange qui a trois facettes. Il s'appelle le Yetzirara. Et en même temps, il s'appelle le Satan. Le Yetzirara, il s'appelle le mauvais penchant. Il s'appelle le Satan, c'est-à-dire Satan en français, on dit en anglais. Ouais. Et il s'appelle aussi l'ange de la mort. Alors, ça veut dire quoi, les trois facettes? Le Yetzirara, c'est la moitié de moi. À l'intérieur de moi, mon cœur est divisé en deux. J'ai une pulsion positive, une pulsion négative. D'accord? J'ai une tendance vers la vie, une tendance vers la mort. J'ai le yin et le yang. J'ai le côté adulte, j'ai le côté enfant. Tout le monde est d'accord qu'on est bipolaire. On est bipolaire. Donc il y a des pulsions en nous dans lesquelles on se reconnaît, on s'identifie, et des pulsions dans lesquelles on ne veut pas s'identifier. Ben, c'est pas grave. Ça s'appelle Yetzara, Yetzeratom. Donc ça, c'est Yetzara, il est à l'intérieur. Le Satan, c'est quoi? C'est que puisque le monde, il est bipolaire, mon corps est bipolaire, le monde est bipolaire, mon cerveau est bipolaire, tout est bipolaire. Donc dans le monde aussi, il y a le monde du bien, le monde du mal. Il y a une force du bien, la force du mal, il y a la proposition du bien, la proposition du mal, il y a les acteurs du bien, les acteurs du mal. Le monde est divisé en deux. Ça va? Tu peux pas dire, ouais, c'est pas normal, c'est pas. C'est ça, il en faut. Il en faut. Il en faut. Tu dis, mais il y a des roses, mais il y a du fumier. Tu dis, ça pue. Mais c'est, les roses poussent dans le fumier. S'il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de fumier. Ah oh, mais pourquoi la rose, elle sent bon, et quand elle pourrit, elle sent mauvais? Ben, c'est un cycle. Il y a la naissance, il y a la mort. Tu dis, il est né. Eh ben oui, mais il est mort. Oh, il est mort. Ben, c'est un cycle. C'est pas grave. C'est un cycle. Comme la roue du vélo. Quand t'as les roues, tu dis, oh, elle est en plein soleil. Oh, maintenant, elle est dans la gadoue. Oh. Ben, c'est la vie. La vie, c'est un cycle. Tu refuses le cycle. Tu refuses. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand la roue, elle est en haut. Mais si la roue, elle reste en haut, ben, c'est que t'avances pas. Tu vois, mais je voudrais bien que la roue, elle soit pas en bas. Ben, il faut acheter un planeur. Pour l'instant, c'est un vélo. Donc, la vie, c'est un cycle. Le couple, c'est un cycle. La naissance, c'est un cycle. L'enfant, c'est un cycle. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. La taille, c'est un cycle. Tu pèses 60 kilos, tu pèses 180 kilos. C'est pas possible. C'est cyclique. Il y a deux cycles chez une femme, ce qu'on appelle le bicycle. D'accord? Donc, c'est quoi cette logique? Cette logique, c'est que, puisqu'il y a une dimension. J'ai parlé de ça. Ah oui. Donc, à l'intérieur de moi-même, il y a le Satan. À l'extérieur, au contraire, à l'intérieur, il y a l'Yetzara. À l'extérieur, il y a le Satan. Et après, il y a l'ange de la mort. Alors, on dit qu'il y a, une linéarité. On dit comme ça, une linéarité? Il y a une linéarité entre le Yetzara, le Satan et l'ange de la mort. Parce que c'est la continuité. Parce que la mort, elle provient de la faute. Et la faute, elle provient de l'incitation à la faute. L'incitation à la faute, c'est le Satan. D'accord? Et la perception de la faute et l'impulsion de la faute, c'est l'Yetzara. Donc, comme la maladie, quelqu'un il est mort. Il est mort de quoi? Eh bien, il est mort d'un ulcère. Ah bon, d'accord. Mais l'ulcère vient de quoi? Il vient de la perception de la réalité. Donc, la réalité, c'est le Satan. L'impulsion intérieure, c'est le Yetzirara. Et la mort, c'est la finalité. Donc, c'est normal que l'ange de la mort soit la finalité du Yetzirara et du Satan, puisque les trois, ils sont branchés de manière linéaire. Ça va? Oui? Donc, si c'est comme ça, Donc, le Satan, en fin de compte, c'est celui à l'extérieur qui nous propose la faute. Il est la même entité que le Yetzirara qui est à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que le Satan, il vient, il va poser la question, mais quel sens a cette mitzvah? Mais ça veut dire quoi? Qui c'est qui pose la question? Ben, c'est nous. Je sais pas si vous me suivez. Non, je vous ai demandé, je vous ai dit, mais qu'est-ce que Rashi veut? Parce que comme c'est marqué les autres, au Kata Torah, que la Torah, elle a donné la loi de la paradouma. Et la vache rousse, c'est une loi qui est incompréhensible. Et c'est un dogme. Alors, si quand le Satan il va venir, il va se moquer, il va dire, mais ça n'a aucun sens de faire une mitzvah pareille. Mais le Satan, c'est nous. Ben oui. C'est-à-dire que nous-mêmes, en même temps qu'on mange cachère, en même temps, des fois, on se dit, ben, moi, je comprends rien. Puis c'est quoi cette Torah? Puis ça n'a aucun sens. Et puis ça ne veut rien dire. Puis pourquoi c'est comme ça? Et puis pourquoi les tzadikim y souffrent? Et pourquoi les chaînes y kiffent? On a tous des questions. Tous. Pourquoi la grand-mère, elle est morte? Et pourquoi et l'autre pourri, il est en pleine forme? Donc, c'est pas grave. Attendez. Mais ça veut dire que la question, elle existe. Parce que la question en hébreu, c'est ma. Même et. D'accord? Même et, c'est valeur numérique 45. Et 45, c'est même numérique que Adam. Adam, c'est ma. Adam, c'est la question. Adam, c'est des questions. Les réponses, c'est pas évident. Mais les questions, c'est sûr. Un homme qui n'a pas de questions, c'est pas un homme. Un fonctionnaire ou un consommateur. Une espèce de mutant qui ressemble à l'homme. Il est en sous-régime jusqu'au solde. Il devient vivant. Mais en attendant, il est mort. Ça s'appelle un consommateur, en deux mots. Donc ici, qu'est-ce qui est marqué? Que le Satan, il pose la question. Le Satan, en fin de compte, c'est la conscience de l'homme. Elle pose la question, elle remet en cause. Umot ha'olam, c'est quoi les peuples du monde? Les peuples du monde, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Kadosh Baruch Hu est venu, il a proposé la Torah au monde entier. Oui. quelle différence entre la réaction des Béné Israël et la réaction des humains, des autres hommes? Ben, quand Hachem il a dit, les Béné Israël ils ont dit d'accord, Naase Benishma. Qu'est-ce qu'ils ont dit les peuples? Ils ont dit Makatoufba, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Alors la Gemara elle raconte, on a dit à un peuple, c'est interdit de tuer. J'ai dit, je peux pas, toute ma vie c'est de tuer, je vis par le meurtre, l'équilibre des populations, là on massacre, là on développe, bon, des fois on dit que c'est du racisme, des fois on dit que c'est de l'ethnie, je sais pas comment ils appellent ça, la destruction ethnique, des fois on dit que c'est un rééquilibrage, des fois. C'est la guerre, la vie, la guerre, la vie, c'est comme ça, la guerre et la paix, hein, c'est. Je trouve ça normal, c'est normal, on massacre, on détruit, on tue les ennemis, on les suit les amis, on s'arrange avec les alliés d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier, c'est comme ça la vie. Donc on peut pas. Si tu enlèves le meurtre, le monde il s'arrête. L'autre lui a dit, c'est interdit de voler. Il a dit, comment on peut pas voler? On peut pas voler de manière illégale, mais enfin de manière légale, c'est tout le commerce. On peut pas enlever le vol. Je veux dire, qu'est-ce qui reste alors? Ouais. Donc, l'autre ils ont refusé la Torah. L'autre il a dit, on peut pas la débauche, c'est interdit. Je ne peux pas. Je lui ai dit, la vie c'est le sexe. Tu m'enlèves le sexe, il reste plus rien. Et puis les sexes interdits, le sexe permis, ça développe la routine. La voisine, c'est jamais la routine, parce qu'elle est interdite. Alors que la femme, c'est la routine, c'est toujours la même, c'est pas intéressant. L'inceste, c'est excitant, les petits garçons, ça, c'est attirant, c'est croustillant. Tu vas leur enlever ça. Alors, il a refusé à cause de ça. Un, il a refusé à cause de ça. L'autre, il a refusé. Ils ont tous refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont dit, Makatouf, bah, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ouais. Les Béné Israël, sans réfléchir, ils ont dit d'accord. Ils ont pris, ils ont accepté. D'un autre côté, on pourrait dire, attends, mais quand même, je veux dire. Faut être un peu responsable, les gars, là. Hey, les grands-parents, là, qu'est-ce qui vous a pris, là? Oh. À chaque fois qu'on prend un contrat, c'est marqué lu et approuvé. On dit en français, en connaissance de cause. En connaissance de cause. Nul n'est censé ignorer la loi. Je veux dire, faut lire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le bon Dieu est venu, il leur a dit, la Torah, il a dit, ouais, donne! Enfin, parce que c'est gratuit qu'il faut en prendre deux. Je veux dire, ça veut rien dire. Il faut réfléchir, il y a des conséquences. Je veux dire, toute l'histoire juive, ce sont les conséquences du relationnel que nous entretenons avec la Torah. Donc c'est lourd de conséquences. C'est pour des générations, c'est des milliers de morts, des milliers de joies, des une chance extraordinaire, une proximité avec Dieu. Mais la proximité avec l'essentiel, des fois c'est dangereux. C'est que le feu, quand tu t'approches, ça brûle. Alors, ils auraient pu un peu réfléchir, les ancêtres, hein, au lieu de se lancer comme ça. Au lieu d'être tranquilles en Bretagne, ils ont été nous mettre là-bas dans un bled, là-bas où tout le monde veut nous prendre 3 km². Ouais, c'est notre pays, c'est la Terre Sainte, il faut la partager, les trois religions. Ça va, je t'ai pas dit que l'Afghanistan c'est à moi, garde ton Afghanistan et moi je garde la terre d'Israël. Non, faut diviser en quatre, la capitale internationale. Est-ce qu'on va dire à Paris qui est capitale internationale? Pourtant tous les peuples sont passés par Paris. Comprenez ou non? Le Portugal, ça a été visité 1 million de fois. L'Espagne, ça a été visité 1 million de fois par des centaines de générations. Les morts, ils étaient les morts. Les morts, avant d'être vivants, ils étaient là-bas, non? Ils étaient en Espagne. Alors pourquoi ils viennent pas dire, eh ben Madrid, ça doit être une capitale internationale, puisqu'au niveau de notre passé, nous avons une grande trace de notre vécu. Non, que Jérusalem. Oubliez-nous. Halene, on dit en anglais, ouais. Non, pourquoi? C'est-à-dire, d'être juif, c'est une responsabilité lourde, très lourde, ouais. Pourquoi ils ont accepté? Parce que d'un autre côté, la question, elle est débile. C'est une question de confiance. Ton père, il t'a mis au monde. Il t'aime, il t'apporte depuis 40 ans. Ton fils, il te dit, papa, mon fils, j'ai quelque chose pour toi. Tu vas dire, ça ne te dérange pas si je vérifie. Il t'a donné la vie, il a créé le monde, il a préparé la Torah, il t'a sorti d'Égypte, il t'a fait des miracles, il a détruit tes ennemis, il t'a donné la richesse, il t'a donné la liberté, il t'a donné la sagesse, il t'a donné une neshama, il te donne la Torah. T'as peur de quoi exactement? Je crois que ton père, c'est un calculateur, que depuis la naissance, il a calculé, il a tenté 18 ans pour te violer. Il est malade. Il est fou, ton père. Il dit, ah, mais mon père, c'est un malade, c'est un obsédé sexuel. Il attendait que t'aies 18 ans, genre maintenant t'es bien formé, il va te violer. Il est fou, ton père. Donc si ton père, il te dit, écoute, c'est bien pour ce garçon, il est bien pour toi. Viens, ma fille fait ce métier, il te conseille, c'est que c'est bon pour toi. Je crois qu'il le fait pour ton mal. Comprenez un peu cette logique-là? Alors quand tu comprends bien les juifs, tu comprends pas l'égoïme. Quand tu comprends l'égoïme, tu comprends pas les juifs. En réalité, c'est les angles de vue. C'est un angle de vue. Ben oui, parce que si tu regardes la confiance aveugle des juifs, tu comprends pas l'obscurantisme du goy. Si tu regardes le regard éclairé du goy qui dit, mais écoutez, il faut quand même regarder ce qu'on signe. Tu comprends pas l'ignorance bête et spontanée du juif. La confiance du 100%. Vous voyez cette logique-là? Mais d'un autre côté, de vous à moi, les gens qui font quelque chose dans leur vie, c'est des gens qui sont aveuglés ou des gens qui sont éclairés? C'est très bizarre. Les gens qui réfléchissent, c'est des gens éclairés, mais les gens qui agissent, c'est des gens aveuglés. Parce que ceux qui sont éclairés, souvent, ils sont intellectuels, ils sont hésitants. Ils font plus rien. Je fais ça. Dans le business, il y a de l'instinct. Il y a plus d'instinct que de réflexion. Après que tu as pris la décision, tu gères. Mais si tu dis, ah, c'est pas évident, les risques, le truc, le calcul, eh ben, tu fais plus rien. Mais qu'il a acheté 4000 appartements, comment il a fait? Ah ben, il l'a senti, il l'a acheté. Ah, mais tu rends pas compte, ça va payer, il faut payer. Par mois, ben, tu vas le payer, ben, tu paieras celui-là, tu paieras le deuxième, tu vendras les trois pour payer l'immeuble, et tu vendras l'immeuble pour acheter les quatre immeubles, ben, c'est comme ça. Ah, mais c'est pas évident, faut avoir des tripes, faut avoir. Mais les tripes, c'est pas le cerveau. Hein. Tu réfléchis avec tes tripes, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment de l'engagement n'a rien à voir avec la réflexion. Tu peux réfléchir avant, tu peux réfléchir après, mais au moment de l'engagement, il faut être à 100%. Parce que la pollution de l'engagement, c'est la réflexion. Pourquoi ils n'arrivent pas à se marier? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils rencontrent, ils truquent, ils font, ils voient pendant des jours, des mois. Alors, mais quand ils vont arriver la roupa ou là le faire pas, c'est évident, puis il n'y a pas que des qualités, puis il y a des défauts, et puis ça marche pas, et puis c'est pas vrai, et puis qui a dit, et puis c'est pas elle, et si je me trompe, et si elle a une maladie cyclique qui se déclenche que tous les quatre générations. Écoute papa, il y a un moment, il faut y aller. C'est comme quand tu fais du parachute. Il y a toujours un mec qui dit saute. Tu n'as pas remarqué ça? Parce que même t'es un kiffeur, t'es un frimeur, mais quand t'arrives, il y a 2000 mètres là, papa, c'est 2000. Tu vois le vide là, tu dis, attends, ça va, on va se poser, hein, je vais pas faire le fou là. J'enlève le parachute, je vais laisser les autres sauter. Hein. Il dit, saute. Sinon tu sauteras jamais. Alors, marie-toi, fais des enfants. Mais tu commences à réfléchir. Un enfant, 198 000 francs, la scolarité. Perte des cheveux, perte des dents, angoisse, redoublement, stress, déception. Oh là là, je vais adopter un chien. Tant qu'il y aura la SPA, ça vaut le coup d'acheter des chiens. Parce que tant qu'il y aura des arbres, tu peux les attacher sur la route. Mais tu peux pas laisser ton fils. Abandon. C'est vrai. Moi, je comprends pas. Moi, pourquoi on n'a pas le droit d'abandonner un enfant? Hein? Ils allaient me dire, mais enfin, vous êtes malade, mais enfin, l'enfant. Enfin. Ben, je comprends pas. Eux, ils aiment leurs chiens comme leurs enfants, et ils les abandonnent. Ah, avec abandonner l'enfant, quelle différence entre abandonner un enfant et abandonner un chien? Parce que tu dis, moi, c'est un animal, c'est autre chose. Il a une âme. Alors, comment t'as fait pour l'abandonner? Ouais, mais tu comprends, parce que au niveau de la location, c'était un gros problème. Il refusait les animaux domestiques. Donc, on l'a attaché à une forêt. Bon, j'espère qu'il n'a pas trop souffert. Il y en a qui vont piquer leur grand-mère. Hein. Vous pouvez me faire une petite piqûre? Elle souffre beaucoup. Non, elle est en pleine forme, la mamie. Oui, mais enfin, c'est compliqué. Je veux dire, on a déjà partagé l'héritage. Il faudrait y aller, là. Ils font piquer. Vous savez pas?
Non.
Non? Bon. C'est normal. Ça existera toujours. La bêtise, ça existera toujours. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué qu'une personne... Ici, c'est marqué que les peuples du monde, en fin de compte, c'est une perception. Maintenant, à l'intérieur d'un juif, il y a un goy. Nous aussi, on peut penser comme un goy. À l'intérieur d'un juif, il y a aussi une mentalité de Yetzer Hara. Donc maintenant, le Yetzer Hara, ça veut dire l'intérêt personnel, d'accord? La conscience. Et le goy, qui va te dire, écoutez, il faut regarder la logique. Nous aussi, on peut aussi regarder la logique. C'est, est-ce qu'on va être capable d'accepter les choses pour fonctionner avec et pour développer ou non? Mais cette logique d'acceptation, elle veut dire que tu te mets dans une position avec le bon Dieu qui est une position que lui, c'est le bon Dieu, et toi, t'es un homme. Et ça, c'est pas évident. Parce que c'est quoi la tentation d'un homme? Ben, c'est de prendre pour le bon Dieu. Pour ça que tout de suite, Hachem, il a mis les choses au clair. Il a dit, « En marchez vos tailles, marchez vos terrains. Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Tu peux être hyper intelligent, tu peux être diplômé, tu peux avoir un cerveau extraordinaire, tu peux avoir un QI de 240. Mais t'es pas le bon Dieu, quand même. Non, mais quand même, c'est pas le bon Dieu. Ben, tu sais, je maîtrise, je gère, je comprends. J'anticipe, je développe. Oui, super. Mais t'es pas le bon Dieu, quand même. Ça, tu vas arriver à le croire. Parce que t'as beaucoup d'argent, parce que t'as un grand cerveau, parce que tu perçois les choses, parce que tu les ressens, parce que t'as une perception universelle de l'univers. Non, t'es pas le bon Dieu. Il a dit Hachem, en marchez vos tailles, marchez vos tailles. C'est-à-dire que tu peux être super puissant, il y a un moment, tu dois savoir ta limite. Maintenant, le positionnement de quelqu'un par rapport au bon Dieu, en fin de compte, ça te donne la taille réelle de ce que tu vaux. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que ce n'est pas interdit d'être immense dans la vie. Tu peux être immense, Parce que Adam, c'est les mêmes lettres que Méod. Méod, c'est beaucoup. Méod, c'est énorme. L'homme, il est énorme. Mais Adam, c'est les mêmes lettres que Adama. Adama, c'est la terre. En même temps, tu es très bas. En même temps, tu es très haut. Il faut savoir. Les plus grands des intellectuels, on les a retrouvés dans des maisons de proxénètes. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu viens d'écrire un livre sur l'éthique, je veux dire. Et que fais-tu là avec 16 bonnes femmes tout nues? Tu comprends, j'ai des pulsions, je suis comme tout le monde, je suis un homme. Alors, il ne fallait pas écrire le bouquin. Oui, mais comment? Il y a mon corps, il y a mon cerveau. T'es dangereux, toi. Comprenez ou non? Cette dimension-là, elle est interdite dans la Torah. Si tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, il ne faut pas le penser. Ou alors, il ne faut pas le vivre, c'est un des deux. Faites ce que j'ai, ne faites pas ce que je fais. Mais non, c'est impossible. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Parce que toi, tu es tordu, tes élèves sont tordus, après tu crées des écoles tordues dans lesquelles on développe des pensées tordues pour faire des sociétés tordues. C'est ce qu'on appelle le compromis. Le compromis est promis. Je veux dire, il va s'accomplir puisqu'il a été promis. C'est un compromis. Il n'y a pas de compromis. La vérité, elle doit être entière. Maintenant, la perpétuité de la vérité, elle vient du fait qu'elle est entière au départ. Le compromis au départ donne l'erreur à la fin. C'est ça qui arrive. Oui, écoutez, c'est trop extrême. C'est quand même un peu orthodoxe. Mais bah, c'est ça. Le mec, il te dit, vous voulez. Monsieur, il dit, pourquoi ce bijou, il coûte 4000 euros, celui-là coûte 50 euros. Monsieur, c'est une question de dosage d'or. Là, il y a beaucoup de cuivre. Et là, il y a beaucoup d'or. Maintenant, on met toujours du cuivre à l'intérieur de l'or. Parce que l'or est trop mou. Donc, il faut du cuivre pour le maintenir. Mais il y a une question de dosage. Celui-là, c'est carrément du cuivre. Avec un petit peu d'or. Il est orange. Celui-là, c'est de l'or avec un petit peu de cuivre. Ah, tu dis, mais il faut de la structure. Ouais, mais il faut de la valeur. Je dis, non, mais la structure est remplacée par la valeur. C'est une armée. C'est pas. C'est un soldat. C'est pas un philosophe. Un philosophe, il doit avoir une structure mentale extrêmement puissante et une machine à perpétuité sa vérité extrêmement puissante. Sinon, il devient un soldat. Un exécutant. C'est que son corps, il est indépendant de son esprit. Ce qui est marqué ici, quand l'homme il s'oblige à se situer par rapport à Dieu, ce qu'on appelle la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, donc c'est un référent. Le référent, il te remet à ta place. Comprenons. Parce que quand tu regardes l'homme, tu peux te prendre pour le bon Dieu. Mais quand tu regardes le bon Dieu, tu ne peux pas te prendre pour le bon Dieu. Ça te calme. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on met une kippa sur la tête. Vous avez déjà dit oui? Pourquoi on met une kippa? On met une kippa pour les coups de soleil, pour... Non. On met une kippa pour garder la conscience. C'est quoi la conscience du bon Dieu? Tu me dis, j'ai pas besoin de la conscience du bon Dieu, j'ai déjà une conscience. Mais toutes les lourdeurs que tu as fait dans ta vie, tu les as fait en toute conscience. Alors ça sert à rien d'avoir une conscience. Il faut que tu aies une conscience au-dessus de ta conscience, mais qui ne soit pas humaine. Ça s'appelle un référent objectif. Maintenant, tu ne vas pas commencer à discuter avec le Shraou, tu ne vas pas discuter avec le Zohar. C'est-à-dire, le Zohar, il exagère. Non, le Zohar, il n'exagère pas. Le Zohar, c'est la vérité. Le Shraou, c'est la vérité. Tu n'es pas content? Ouais, mais tu comprends, moi je préfère voir les choses différemment. Ça, t'es subjectif, t'es mort. Pour ça que dans les trois couches, il y a le corps, il y a le psychique et il y a l'âme. Maintenant, toi, tu tends vers ton âme et tu tends vers l'objectivité, soit tu tends vers ton corps et tu tends vers la subjectivité, c'est comme tu veux. C'est un choix qui t'appartient. Maintenant, normalement, les enfants, ils sont hyper subjectifs. Oh, la sucette, le ballon. Et les adultes, ils sont plus objectifs. Un adulte, c'est quelqu'un qui tend vers faire ce qui est essentiel chez lui. Et un enfant, c'est quelqu'un qui tend vers ce qui est superficiel chez lui. Il n'y a pas d'âge pour ça. Chacun, il décide qu'est-ce qui est important dans la vie. Vous me suivez ou non? Maintenant, normalement, on grandit. Normalement. Un homme, il grandit. Une femme, elle grandit, normalement. Mais si elle grandit pas, ça se voit. Parce qu'elle reste toujours avec son problème, je veux trouver des chaussures qui vont avec le tailleur. Non mais, je veux dire, t'as une fille qui est anorexique, je veux dire, t'as des choses sérieuses. T'as un problème avec ta fille, il faut que tu lui parles. Je sais qu'elle aussi, elle est mal dans ses pompes, mais je veux dire, faut que tu parles avec ta fille, elle est anorexique. Oh mais j'arrive pas, ça me paralyse, j'ai pas trouvé des chaussures avec le tailleur, je vais avoir l'air de quoi devant ma belle-sœur? T'as d'autres problèmes, là. C'est pareil pour toi, tu sais, t'es angoissé, t'es stressé, parce qu'il te manque 500 euros, bon mais ton fils, il est envoyé de l'école. Faut que tu parles avec ton fils. Ouais, mais j'arrive pas à me concentrer parce que au niveau de mon chiffre, il me manque 500 euros. Mais c'est rien, 500 euros. 500 euros, c'est rien. Mais un enfant dans la rue, c'est grave. Maintenant, faut que tu ailles voir ton fils, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Oh là là, écoute, moi, je suis troublé, j'arrive pas à me concentrer. C'est ça ton problème. C'est que peut-être que toi, tu as besoin du matériel pour éviter l'invitation au spirituel. Comme tu as besoin du superficiel pour éviter l'invitation à l'essentiel. C'est, quelque part, la bêtise, c'est lourd, mais au fond, c'est confortable. C'est vachement confortable, la bêtise. Ouf. Bête et heureux. Alors que conscient, entier, sincère, pff, c'est fatigant. Tu fais quoi? Moi, j'ai une petite vie, je veux dire, métro, boulot, cimetière, un truc vraiment, qui va vers le repos, je veux dire, le repos éternel. Ouais. Et ce qui est marqué. Que quoi? Que quelqu'un, il comprend que quand c'est marqué Chukat à Torah, c'est-à-dire c'est le dogme de la Torah, la chose qu'il n'a pas acceptée, Korach, ouais, de refuser que quelque part, on t'impose. Tu dis, mais c'est insupportable, je suis pas un idiot pour qu'on m'impose. Mais non, quand c'est un homme qui t'impose, tu dis, qu'est-ce qu'il a lui? Mais quand c'est le bon Dieu qui t'impose, il faut bien que tu aies une référence objective dans le monde, c'est pas grave. Maintenant, si toi, tu es en conflit avec l'objectif, bah ça veut dire que tu n'as plus aucune référence. T'es une girouette. Vous comprenez? Les gens qui remettent tout en cause, ils se remettent aussi en cause. Il n'y a plus rien. Là, j'arrive à vous parler parce que le parterre, c'est le parterre et le plafond, c'est le plafond. Imaginez que le parterre devient le plafond. La terre, elle se retourne. Et... Oh, je pourrais pas vous parler. Après, les murs, ils se recollent. Ah! Comment je vais faire? Donc, on a besoin de références. On les pose, les références. C'est bien. On les pose. Ouais. Tu es en train de parler, on t'appelle. Ton père, il dit, bon, écoute, je vais juste te dire que je suis pas ton père. Hein? Moi, je t'ai trouvé dans un hôpital. Oh. Bon, écoutez, je suis un peu troublé. C'est difficile. L'autre, il reçoit un analyse de sang. Oh, vous êtes une femme. Ah, je pensais que j'étais un homme. Non, on a revu les hormones, vous êtes une femme. Et mon corps? Non, ça ne veut rien dire. Ah, je comprends maintenant pourquoi je... Ah ben oui, pas. Vous comprenez cette logique-là? Ça veut dire que on a besoin des repères. On a besoin des repères. Et ben comme on a besoin des repères mentaux et psychologiques et physiques, on a besoin des repères spirituels. Mais celui qui refuse des repères... Ouais, c'est du dogmatisme, et c'est la religion qui t'écrase, et on ne cesse pas réfléchir, et puis moi j'ai envie de vivre, et j'aime pas qu'on m'impose, je veux pas qu'on m'interdit d'aller au cinéma le samedi, mais t'as le droit d'aller toute la semaine au cinéma. Pourquoi tu vas aller que le samedi? Pourquoi tu veux faire tes courses que le samedi? Maintenant le samedi, la Torah t'a dit que ça s'appelle Shabbat. Ouais, même en italien, samedi c'est sabato. Ils ont compris, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un moment où tu peux axer sur le spirituel. Tu peux te concentrer. Maintenant la seule manière... De concentrer, c'est d'interdire. C'est la seule manière. Quand tu rentres au CNRS, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de stripteaseuse, il n'y a pas d'écran plat, il n'y a pas. Parce que c'est un endroit de travail. La seule manière de créer un endroit stérile de construction, c'est d'enlever la destruction. Tu vas pas dire, je compare au nom de la liberté, pourquoi on ne met pas une stripteaseuse au CNRS? Le mec, il ne veut pas se concentrer, mais qui est là, etc. Attends, c'est de l'acide chlorhydrique, Boba, là, que tu es en train de manipuler. Non, mais ça va, c'est au nom du pluralisme. C'est logique. Alors si tu acceptes qu'il n'y a pas de stripteaseuse, pourquoi tu veux pouvoir rentrer en maillot de bain à la synagogue? C'est pas moins un endroit de concentration à la synagogue que... Au nom de la liberté, au nom de la diversité, au nom du pluralisme. Mais t'es vrai ou quoi? C'est une notion élémentaire de concentration. Je te parle même pas de la kedusha, ça je vais même pas t'en parler parce que même ta tête elle a pas accès à ça, c'est loin pour toi. Mais au moins au niveau de la logique de la concentration... Que la seule manière de créer un endroit de concentration, c'est d'interdire l'accès. Comme les chantiers. Pourquoi dans les chantiers, il y a des barrières de protection? Pourquoi? C'est quand c'est marqué en Israël. Kan bonim, assur le tzibur. Ici, on construit interdit au public. En français, en France, il n'y a écrit que interdit au public. Ouais. Moi, je comprends pas un truc. Franchement. Puisque c'est un chantier, parce que c'est déjà un chantier, les gens peuvent rentrer parce que c'est déjà un chantier. C'est quand tu dis, vous pouvez rentrer, c'est vraiment un chantier. Ne faites pas attention, la maison, c'est vraiment un chantier. Alors, t'as pas honte de faire rentrer quelqu'un dans un chantier parce que c'est un chantier, de toute façon, il va rien casser, c'est un chantier. Alors, pourquoi on peut pas rentrer dans un chantier? Vous savez pas pourquoi? Parce qu'on construit ici. Un chantier, il faut l'interdire au public. À l'intérieur de toi, pour l'instant, c'est vrai que c'est un chantier, mais on construit dedans. Donc tu ne peux pas laisser pénétrer les autres. Tu dis, tu te mêles de ta vie, je me mêle de la mienne. C'est mon chantier. Non mais je vais t'expliquer comment tu marches, comment tu fonctionnes. Tu veux faire ta thérapie? Va te soigner. Non mais c'est juste pour te conseiller. Non. Si je te demande, fais-le. Si je te demande rien, fais cette mitzvah. Ferme-la. Non mais c'est pour t'aider, c'est pour t'orienter, c'est pour te... Quoi, t'es tellement préoccupé par mon devenir que t'arrives pas à endormir. Quoi, tellement t'as besoin de sujets de conversation que parce que t'as peur de rencontrer le vrai, le tien. Occupe-toi de toi. Moi, je m'occupe de moi, toi, tu t'occupes de toi. C'est comme ça la vie. Genre, des fois, ils me disent, mais vous devenez pas fou quand vous regardez. Non, non, moi, je ne branche l'ordinateur que sur demande. Si quelqu'un me dit, je vais parler avec vous, je voudrais que vous m'aidiez à analyser une situation, j'allume l'ordinateur. Sinon, je n'allume pas. Je te vois faire des lourdeurs. Je vois que tu vas divorcer en 3 mois. Je vois comment tu parles avec ta femme. Je fais rien. Je te laisse. Tranquille, je te laisse, mais tranquille. Mais ça ne vous trouble pas. C'est pas difficile. Vous n'avez pas envie d'intervenir. Vous ne voulez pas te sauver. Non, 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 tu ne vas rien sauver, papa. Rien, rien du tout. Tu sais qu'au moment où je te parle, il y a des millions de personnes qui tirent la chasse. Vous êtes au courant? Maintenant, je suis en train de vous parler. Il y a des millions de personnes dans Rennes, dans Villeurbanne qui tirent la chasse. Et tous ces excréments qui partent, ça vous désole pas? Eh bien, il y a des gens, ils tirent la chasse sur leur couple et leur couple, ils partent. Et là, ils tirent la chasse sur leurs enfants et leurs enfants, ils partent. Je vais me rendre malade, moi? Non. Maintenant, le mec, il vient, il veut me parler, il veut me dire, moi, je suis prêt, moi. Je te parle avec toi. Mais sinon, je vais pas rentrer dans ton problème, sinon tu deviens fou. Parce qu'à la fin, à force de t'occuper, finalement, tu t'occupes plus de toi. Alors, tu sais plus maintenant. Si c'est l'autre qui a besoin de toi, c'est toi qui a besoin de lui. Ça va. Donc, cette logique-là, c'est quoi? C'est d'arriver à se concentrer sur ce que la vie elle attend de nous, parce qu'on a un rôle à jouer, on a quelque chose à faire. Il dit, mais non, c'est quoi la tentation? La tentation, c'est de croire que notre opinion, ouais, notre opinion personnelle, elle peut être à l'origine des choses. Il dit, non, il faut te calmer, il faut te descendre pour ça. Pour ça que la Torah, elle a donné des lois qui sont incompréhensibles. Parce qu'il y a aussi des lois compréhensibles dans la Torah. Il y a aussi des cheminements intellectuels qu'on peut avoir dans les choses. Au Hachem, 95% des choses, on peut avoir un cheminement intellectuel. Mais ça ne doit pas remettre en cause que le fond, ne nous appartient pas. Le fond ne nous appartient pas. C'est à quelque chose qu'il a donné. Maintenant, toi, tu veux te rassurer intellectuellement et réfléchir. C'est bien, tu as le droit de le faire. Tu peux me créer une logique, tu peux te mesurer par rapport à la Torah. C'est bien. Quand tu l'as déjà accepté, alors tu fonctionnes avec. Mais si toi, tu utilises ta réflexion pour la rejeter, donc non seulement elle te complexe, mais en plus, tu n'as plus de repères. C'est pour ça que souvent, vous voyez que les Juifs qui rejettent la Torah, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont pas bien chez le goy, ils sont pas bien chez le juif, ils sont pas bien chez eux, ils sont pas bien dans la communauté, ils sont pas bien en dehors de la communauté. Quand ils sont en dehors de la communauté, ils se sentent mal quand on parle des juifs. Quand ils sont dans la communauté, ils disent non, c'est trop typé, j'aime pas ce genre, ça fait trop fuge. Ah, je comprends pas, t'es quoi toi? T'es pas breton, t'es pas tunisien, t'es quoi? La troisième dimension. C'est pas vrai. Tu t'inscris dans ta logique. Le breton, il est bien chez les bretons, toi t'es bien dans ta communauté, chacun il est bien dans sa communauté. Comme toi t'es bien dans ton corps. Si tu refuses ton corps, tu vas te passer toute ta vie à lutter contre ton corps. Tu peux pas. Alors que tu vas te faire transposer dans un autre corps. C'est ton corps. Et cette logique-là, c'est la logique qu'un acte et une mitzvah, c'est pas la même chose. La Torah, elle n'a pas demandé de faire des actes. Elle a demandé de faire des mitzvot. Or, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, c'est un acte auquel on a donné un caractère divin. Maintenant, puisqu'on est fait en 3 couches, on a dit le corps, le psychique et l'âme. Si ton psychique, il agit sur ton corps, ça s'appelle un acte. Mais si ton âme, elle agit sur ton corps, ça s'appelle une mitzvah. Maintenant, toi, tu peux relier, c'est-à-dire donner un sens divin à ton acte humain, et ta vie, elle change complètement. Maintenant, quand tu fais une mitzvah, c'est un acte divin. Quand tu fais un acte, c'est un acte humain. Pourquoi tu ne voles pas? Ben, écoutez, parce que c'est un principe d'honnêteté qui permet de la sérénité et la perpétuité de la relationnelle de société. D'accord. Pourquoi lui, il vole? Non, mais lui, c'est son métier. Donc, lui, il a le droit. Lui, c'est légal. Lui, c'est légitime. Tu vois, c'est pas normal. Non. Toi, tu ne dois pas voler parce que Dieu, il a dit. Donc, comme tu as donné un caractère divin, la dimension, elle est absolue. C'est ton argent, Alpi Alaha, c'est pas ton argent. C'est ton argent, c'est pas ton argent. Tu dis, ouais, mais tu vas voir un rabbin, ton rabbin, il te dit, c'est pas ton argent. Et t'acceptes? Mais bien sûr. Mais en bataille, la grande sérénité, c'est quoi? C'est la certitude. Maintenant, si toi, t'as réussi par le. T'as gagné le procès, t'as triché, t'as menti, t'as pris un bel avocat, t'as réussi à récupérer l'argent. Mais tu sais que c'est pas ton fric, mais tu te sens mal. Tu dis, non, je m'en fous. De toute façon, moi, légalement, je veux dire, j'ai récupéré l'argent. Mais tu te sens mal. Après, quand ton fils il tombe malade, tu te dis, oh là là, ça doit être à cause de l'argent. Quand ta fille elle a un accident, tu te dis, ah, oh, ça doit être à cause du fric que j'ai pris. Ah, c'est à cause de l'autre qui m'a maudit. Tu te sens mal. C'est-à-dire de l'argent pourri, il est pourri. Mais l'argent, c'est le prolongement de l'acte. Donc, une parole pourrie, elle est pourrie. Ah, même si elle est légitime, même si elle est légale, mais si elle est mauvaise. Comprenez ou non? Donc, le fait d'avoir une référence absolue qui s'appelle la halakha, ça te rassure. C'est mon argent, c'est mon argent. C'est pas mon argent, c'est pas mon argent, j'ai pas de problème. Comprenez ou non? Le Rav, il te dit, bon, les 100 000 euros, ils sont pas à toi. Ils sont pas à toi. T'en comptes 100 000 euros. Mais Dieu va t'envoyer 2 milliards, qui s'en foutent. Et là-bas, il ne va pas te les envoyer. D'accord, mais les 100 000, ils sont pourris, donc ils vont te pourrir la vie. J'arrive pas à vivre comme ça. C'est encore une logique d'acceptation. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ah bien sûr, enfin, attention, encore une fois, c'est pas n'importe quel rave, il faut voir un spécialiste, faut qu'il y ait une Sietal Ishmaïa, faut qu'il ait une crainte de Dieu, faut que tu sentes que Hachem, il était avec toi dans le Bet Din. C'est pas comme ça, parce qu'un rave aussi peut se tromper. D'ailleurs, dans la Lacha, un vrai Din Torah, si le rave il se trompe, c'est lui qui rembourse. Vous comprenez ou non? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas te perpétuer dans une logique qui est-ce que tu regardes ton opinion ou est-ce que tu regardes l'opinion de la Torah? Est-ce que tu regardes l'opinion de ceux qui représentent la Torah ou tu regardes ton opinion personnelle? Est-ce que tu te bagarres avec eux ou tu essaies de les comprendre? Alors il y a un Tosfot dans Sanhedrin, le dernier Perek, Perek Helek, c'est la première page du dernier Perek de Sanhedrin. Là-bas, la Mishnah a dit que Kol Haomer entre à Tamitim min Torah, elle n'a Helek le Baba. Si quelqu'un va dire que la résurrection des morts va exister. Il croit dans la résurrection des morts. Mais il ne croit pas qu'elle est écrite dans la Torah. D'accord? Il a une logique philosophique. Il pense que la résurrection des morts, c'est dans le monde à venir. C'est dans l'autre monde, c'est-à-dire après Mashiach. La Torah, c'est un mode d'emploi qui fonctionne jusqu'au Mashiach. Donc la Torah ne peut pas parler de ce qui est après Mashiach. D'accord? Ou non? Oui ou non? Les Chachamim, ils ont dit oui. Il y a une allusion à la résurrection des morts dans la Torah. Lui, il dit que non. Maintenant, lui, il pense qu'il y a, oui, mais il pense que ce n'est pas écrit dans la Torah. La Gemara, elle dit, tout celui qui dit qu'il n'y a pas écrit la résurrection des morts dans la Torah, il n'aura pas droit à la résurrection des morts. Alors nous, on dit, on ne comprend pas. Un mec qui ne croit pas, c'est normal qu'il n'a pas. Mais un type qui croit, mais il pense que ce n'est pas écrit, pourquoi il n'a pas? Vous avez compris la question? Ça va? Regardez ce qu'il dit. Tosfot. Chez Kofer Memidrashim. Lui, il renie les midrashim, c'est-à-dire les enseignements des Darshinan Bigmara qu'on rapporte dans la Gemara, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a la résurrection des morts. Quand la Gemara dit les Kaman, plus haut, Minain et Tratameti Minatora, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a la résurrection des morts d'après la Torah. Attention. Ve'afilu ye'emode uma'amin shi'ichyu ametim. Même s'il reconnaît, et il a la croyance, il a la imuna, que les morts vont revivre. Et là, de lo ramiza b'oraita. Mais il ne pense pas qu'il y a une allusion à cela dans la Torah. Kofer ou, ça s'appelle qu'il est kofer, il renie. O il ve oker, puisqu'il déracine chez Yesh Triatameti Mina Torah, qu'il existe la notion de résurrection des morts dans le texte. Il dit, regardez ce qu'il dit Tosfot. Malanu ou le emunato. Qu'est-ce que ça peut nous faire, sa croyance? Vechi, mais echan ou yodea sheken ou. D'où est-ce qu'il sait que c'est comme ça? Il car, kofer gamour ou. C'est pour ça qu'il s'appelle un kofer gamour. Rabota, ici, c'est marqué une chose incroyable. Quelqu'un, il a une pensée extraordinaire. Quelqu'un, il a une puissance de réflexion énorme. Quelqu'un, il a une capacité de conceptualisation qui est incroyable. Mais il ne veut pas la référencer à la Torah. D'accord? En français, ça s'appelle une opinion. Une opinion, c'est extrêmement aléatoire. Tu peux dire comme ça, tu peux dire le contraire. Ouais? Par exemple, un truc bizarre, la définition du mort, de la mort, c'est pas évident. La mort, c'est quoi? Est-ce que, même en médecine, c'est pas évident. Il y a des pays où on pense qu'il faut l'arrêt du cœur et l'arrêt du cerveau. Il y a des pays où c'est que l'arrêt du cerveau. Il y en a qui c'est que l'arrêt du cœur. Une fois, j'ai demandé à un étudiant, je dis, comment ça se fait que les corps qui y reçoivent là-bas en école de médecine pour disséquer par l'anatomie, en majorité, c'est des corps de couleur, de noir. Il m'a dit pourquoi? Parce que comme en Afrique, l'arrêt cardiaque est considéré comme la mort, donc ils n'attendent pas l'arrêt cérébral. Donc le corps, ils peuvent l'utiliser directement, ils peuvent l'exporter pour que les étudiants français, ils apprennent à disséquer. Mais c'est dangereux. Parce que s'il n'y a pas d'arrêt cérébral, le mec, il peut revenir. J'ai lu là dans le journal, il y a un type en Pologne, vous l'avez vu celui-là?
Oui.
Oh, c'est beau. 19 ans de coma. 19 ans de coma! C'est-à-dire que. Et en Pologne en plus. Je ne sais pas si vous connaissez la Pologne. Le mec. L'hôpital, il ne voulait plus de lui au bout d'une semaine. Sa femme, elle s'est occupée pendant 19 ans. Mais attendez, une personne qui est dans le coma, c'est soins intensifs normalement. Soins intensifs, d'accord? En plus, pour que la personne, elle n'attrape pas des escarres, il faut la déplacer tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure! Tous les quarts d'heure! Jour et nuit pendant 19 ans. Elle devait l'aimer, son mari, hein? Toi, tu dis à ta femme, je t'en fais-moi un café. Dégage ! Crève ! Après, tu vois l'escarre qui est entre toi et ta femme. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme, elle a cru à son mari, en son mari pendant 19 ans. Et au bout de 19 ans, il s'est réveillé, le mec. Alors, moi, je pose une question. Peut-être qu'il y a plein de gens qui sont enterrés, mais qui étaient vivants. Ça, c'est... Bah, ça là. D'accord. Bah, c'est pour ça qu'il faut toujours être enterré avec un téléphone portable. On sait jamais. Je rigole. D'accord. Non, mais ça veut dire quoi ? Que quoi ?
Ils ont enterré un mort. Mais en fait, il était vivant. Ils allaient pour l'enterrer.
Non, il a tapé.
Il a tapé au cercueil.
Vous avez entendu
ça là ? Ça me dit quelque chose.
Mais c'est mes grands-parents qui m'ont.
Ouais, c'est possible. Non, mais c'est arrivé partout. C'est pas que quoi. Parce que Colombéchard, c'est une ville spéciale. Mais je veux dire. Bon. En tout cas, le type qui a allumé le chauffage, permettez-moi de le dire que vraiment, il n'est pas béni, celui-là. D'accord. Pourquoi il fait chaud comme ça ? On va mourir.
Il n'y a rien.
Ils ont fait chaud. De toute façon, moi, j'en ai que 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Ici, c'est très, très important que vous compreniez ça. Parce que ça résume tout le cours. Regardez Tosfot en une phrase, il a dit ce qu'on a dit en 1h30. Le principe, c'est pas ce que tu crois. Le principe, c'est pas ce que tu penses. Le principe, c'est pas ce que tu as réfléchi. Le principe, c'est pas ce que tu as conçu. Le principe, c'est est-ce que tu es d'accord que c'est écrit dans la Torah ? Parce que si tu es d'accord que c'est écrit dans la Torah, c'est pas une opinion que tu as. C'est une relation de croyance. C'est ce qui te relie au divin. Ce qui te relie à la Torah, c'est ce qui te relie au divin, c'est ce qui te relie au judaïsme, c'est ce qui te relie au peuple juif. Maintenant, la destinée du peuple juif, elle est éternelle. Dieu, il a promis qu'il y aurait des juifs jusqu'à la fin des temps. Malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, et malgré les persécutions, et les douleurs, et les souffrances, et les pogroms, et les dadom, on est condamné à exister, de toute façon. On est condamné à exister, d'accord ? Donc maintenant, on va être là. Donc maintenant, quelqu'un qui se rattache à la Torah, d'accord, il se rattache au peuple juif, il se rattache à la perpétuité du peuple juif. Mais quelqu'un qui pense que non, écoutez, il y a un chemin parallèle qui s'appelle la réflexion personnelle, j'ai une perception, j'ai des choix, j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de vivre, tu t'étonnes que le mec, après, il disparaît de la masse. Comme j'ai expliqué, il est à Quimper. Qu'est-ce qu'il faut à Quimper ? D'accord ? C'est que cette dimension-là, que c'est les mots du Tosfot qui sont abominables. Il dit... Puisque lui, il ne croit pas que c'est écrit dans la Torah. Mal à nous, les Mounato. Qu'est-ce que ça peut nous faire, sa croyance ? Vérimé, Echano Yodéa, d'où est-ce qu'il sait ? Donc, puisqu'il sait de nulle part, il peut dire le contraire aussi. Vous comprenez ou non ? Quelqu'un, il peut être convaincu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il aime sa femme, demain, il la trompe. Mais comment c'est possible ? Ah, mais tu sais, c'est un coup de folie. Aujourd'hui, il est profondément honnête, demain, il est malhonnête. Aujourd'hui, il est médecin, le lendemain, il est nazi dans un camp de la mort. Tu dis, mais enfin, c'est pas possible, enfin, je te connais, Adolphe, mais tu étais avec nous, on était à la même fac, à Munich. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant ? C'est toi qui es responsable de la chambre à gaz ? Eh ben, papa, c'est. Eh ben, mais ta thèse, tu l'as écrite sur la fonction humanitaire de la conscience. Et maintenant, tu allumes la chambre à gaz ? C'est tes opinions, papa. Tant que tu n'as pas une référence objective de ton opinion, elle peut changer. Alors que la référence objective, elle ne peut pas changer. Donc la base de la croyance et la base de la Torah, c'est justement d'être capable de se relier à une référence objective. C'est la référence de la Torah. Maintenant, après que tu as accepté la référence, mais tu peux philosopher toute ta vie, tu peux développer, tu peux construire, tu peux réfléchir. C'est même une mitzvah d'étudier la Torah toute la journée. T'as peur de quoi ? T'as peur de dire « Oui, mais on va imposer aux gens, ils vont devenir des idiots, et c'est une religion de dogme. » Mais non, au contraire, puisque c'est une mitzvah pour un juif d'étudier la Torah toute sa vie, du matin au soir, et d'écrire des commentaires dessus. Donc non seulement que t'as une mitzvah d'être intelligent, mais en plus t'as un interdit d'être bête. Interdit d'être bête. Mais sur une base de croyance, sur une base d'acceptation. Mais si toi, tu refuses le principe de la connaissance sous prétexte de garder ton objectivité intellectuelle, en vérité, tu as choisi le non-repère. Or, le flou, ça intéresse qui ? Le net, ça dérange qui ? Et le flou, ça intéresse qui ? Or, comme l'a dit le Rav Colombo, quand on cherche un meurtrier, il faut toujours poser la question à qui profite le crime ? Donc, au lieu de toi de te perdre dans les méandres de ton intellectualisme, tu dois plutôt réfléchir comment ça se fait que tu as choisi de refuser plutôt que d'accepter. C'est plus intéressant. Ça va ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?